18h, 20h, Thierry Dagiral sur Europe 1.
Et bonsoir à toutes et à tous, on est parti pour 2 heures d'information sur Europe 1. Dans un instant, le journal avec 2 titres à la une ce soir, bien sûr. Christophe Castaner dans le Gard et la mobilisation à Nantes pour Steve, avec des manifestations cet après-midi. 18h30, le musée du Louvre, victime de son succès, il va falloir maintenant réserver pour y rentrer. Je recevrai Vincent Pomarel, l'administrateur général adjoint du célèbre musée parisien. 18h40, l'interview média. Cyril Ferraud sera en direct avec nous. Il commentera demain pour France 3 la grande parade du festival Interceltique de Lorient. Les festivals, justement, au plus près de votre lieu de vacances, des festivals authentiques, originaux. On partira en balade avec Thierry Geffrotin à 19h30. Et puis juste avant, à 18h50, une autre balade, cette fois-ci, culinaire, gourmande, avec Marion Sauveur. On va cuisiner la lentille du Puy-en-Velay ce soir. Voilà, on est parti avec vous Catherine, bonsoir, vous allez bien?
Bonsoir Thierry, ça va et vous?
Vous êtes prête?
Ah oui, plus que jamais.
Alors bon début de soirée à tous sur Europe 1.
Et n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Soyez les bienvenus, il est 18h. Europe 1, le grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Et le journal est présenté par Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Une trentaine de personnes interpellées à Nantes en marge de la manifestation contre les violences policières suite à la mort de Steve Maiakaniso. Affrontement entre casseurs et forces de l'ordre. Nous serons sur place dans un instant. Christophe Castaner auprès des pompiers dans le Gard. Le ministre de l'Intérieur assure que tout sera fait pour que les responsables de l'incendie de Générac soient identifiés dans le village. C'est toujours l'émotion et la colère. Et puis ça roule un peu mieux sur la route de vos vacances pour ce samedi noir affiché par Bison Futé. On a compté jusqu'à 720 km de retenue sur les grands axes.
Europe 1.
À Nantes, Lionel, les hommages à Steve Maiakaniso avaient commencé dans le calme ce matin, mais dans le courant de la journée, la situation a dégénéré.
Ouais, des scènes d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en marge du rassemblement pour dénoncer les violences policières, mais aussi les circonstances de la mort du jeune homme lors de la fête de la musique le 21 juin dernier. Jets de projectiles et gaz lacrymogènes, du mobilier urbain arraché, des vitrines de magasins saccagées. Yasmina Katou, vous étiez sur place cet après-midi pour Europe 1.
Oui, en tête de cortège, les Black Blocs, des hommes masqués, cagoulés, entièrement vêtus de noir. Du centre de Nantes, ils se sont dirigés vers la préfecture au rythme des slogans. Arrivés devant la préfecture, certains ont tenté d'escalader les murs du bâtiment. C'est là que les premières bombes lacrymogènes ont été envoyées. Depuis la préfecture, un canon à eau a également été utilisé pour disperser la foule. Des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre. Isabelle voulait rendre hommage à Steve. Elle regrette les débordements.
Bon, les parents de Steve ne voulaient pas de violence, donc c'est pas respecté. Repose en paix, c'est ce qu'on dit, mais bon, derrière lui sera associé ce drame, et puis on s'en rappellera de cette façon, quoi. Il y a d'autres jours, d'autres samedis, je suis contre la violence.
Les incidents se sont poursuivis un peu plus loin sur une grande esplanade. Un hélicoptère surveille depuis le ciel les Black Blocs qui incendient poubelles et autres mobiliers de jardin. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Une épaisse fumée noire se répand mêlée aux nuages blancs de gaz. La répression des gendarmes devient plus violente en fin de cortège où des grenades de désencerclement sont jetées. Au milieu de la foule, Rémi a été blessé.
J'étais en train de discuter avec les gendarmes pour essayer de faire baisser le niveau de violence. Et d'un seul coup, ils ont balancé quelque chose et j'ai pris un éclat. C'est les grenades qui explosent. C'est au niveau du pectoral. Ça m'a juste arraché un petit bout de peau. Je l'aurais pris dans l'œil, dans les dents ou dans le nez. C'était une autre genre de blessure.
Et d'autres blessés sont à déplorer, dont un grièvement blessé à la tête par un tir de flashball. 40 personnes ont été interpellées.
Et Yasmina Katou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Nantes. Yasmina l'évoquait à l'instant, la famille et les proches de Steve s'étaient démarqués de ces rassemblements du jour à Nantes, refusant en fait de s'y associer directement.
Dans le Gard, les 2 suspects interpellés dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Générac ont été remis en liberté.
Apparemment mis hors de cause, mais l'enquête se poursuit et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, était sur place ce matin pour rendre hommage aux soldats du feu et au pilote bombardier d'eau qui a perdu la vue hier en luttant contre l'incendie de forêt. Le ministre qui assure que tout sera mis en œuvre pour identifier les auteurs de ces départs de feu.
Ne négligeons jamais que 90% des incendies que nous connaissons sont d'origine humaine et quelquefois ils sont d'origine criminelle. Et c'est hélas, semble-t-il, ce qui s'est passé ici dans le Gard et en particulier à Générac. Et c'est dans un moment de combat contre le feu, avec à la fois un engagement total de nos pompiers sur le terrain, accompagnés, guidés, éclairés par les pompiers du ciel, que l'un des nôtres est décédé. Franck était un pilote expérimenté. Il avait été pilote de Mirage 2000. Ici, il avait piloté la totalité des avions qui combattent les incendies dans le cadre de la flotte de la sécurité civile. Il était aujourd'hui heureux et fier de piloter un Tracker. Et au moment où il s'engageait pour préserver une propriété, il y avait des femmes, des hommes, des vies en jeu. Il n'a pas hésité. Un accident a emporté sa vie.
Et Christophe Castaner ce matin sur la base aérienne de la sécurité civile du Gard sur les circonstances de l'accident du Tracker, justement. Une source proche de l'enquête citée ce matin par l'AFP laisse entendre que le pilote aurait pu être victime d'une perte de repère en traversant un épais nuage de fumée alors qu'il était en phase descendante. Sur place, le bilan très lourd de ces incendies qui ont détruit près de 800 hectares de forêt provoque la colère et l'indignation de la population. C'est ce qu'a pu constater Victor Delande, notre envoyé spécial.
Plus de 300 hectares de garrigues partis en fumée en quelques heures autour du village de Générac, un désert de cendres de chaque côté des routes, des pylônes électriques effondrés, seules quelques vignes ont résisté au milieu des flammes. Denis possède un mas sur les hauteurs de la commune. Hier, il a aidé des voisins à protéger leurs maisons et leurs bêtes. Aujourd'hui, il est très remonté contre les criminels qui ont provoqué l'incendie.
On est encore plus en colère. Hier, malheureusement, il y a eu en plus une victime, donc c'est catastrophique. Et c'est catastrophique pour le village parce que quand on connaît le village et on est entouré de 7 collines qui sont boisées et magnifiques, et bien là maintenant on est entouré d'une grosse tache noire. Donc ça fait très très mal au cœur.
À 10 km de là, des habitants des villages aux alentours comme David sont venus déposer des fleurs devant la base aérienne de sécurité civile en hommage au pilote décédé.
J'étais choqué, ma femme pareil, et d'apprendre qu'un pompier décède comme ça, je trouve ça dramatique. Ils sont là pour nous aider, pour quand on a des accidents. Je vous dis la vérité, j'avais les larmes aux yeux d'apprendre ça. Pourtant, je ne le connais pas, mais bon, c'est un drame. Hein.
Toute la journée, plus de 450 pompiers sont restés mobilisés pour surveiller les moindres reprises de feu. Et ils en ont éteint plusieurs il y a quelques heures à peine. À Générac, Victor Dolande, Europe 1.
Voilà, et puis sur ces incendies et sur la mort du pilote, à 18h15, notre invité sera Jacques Witkowski, le directeur général de la sécurité civile. Il était aux côtés de Christophe Castaner aujourd'hui. Lionel, l'actualité à l'étranger à présent, c'est cette nouvelle mobilisation des opposants à Vladimir Poutine cet après-midi à Moscou.
Avec plus de 300 arrestations parmi les manifestants, des manifestants qui réclament l'organisation d'élections libres en septembre prochain. Selon une ONG, 6 journalistes auraient également été interpellés. Une manifestation qui avait pourtant assez peu mobilisé, un peu plus d'un millier de personnes rassemblées.
On marque une pause. On nous irons sur la route des vacances pour le plus gros chassé croisé de l'été. À tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Europe 1, 18h07, la suite du journal, Thierry Dagiral, Lionel Gougelot.
Oui, Lionel, Bison Futé avait brandi le drapeau noir pour cette journée de samedi. Et les routes des vacances étaient bien chargées aujourd'hui.
Avec un pic de bouchons cumulé de 720 km à la mi-journée, c'était conforme aux prévisions en fait. Hein. Sans surprise, ce sont les grands axes vers les plages du sud-ouest et dans la vallée du Rhône, qui étaient les plus encombrés. Sur l'autoroute entre Marseille et Toulon, Romain Oquet a rencontré des vacanciers soulagés d'arriver à destination. Certains, vous allez l'entendre, ont même un peu limité la casse. Question bouchon.
Là, on est sur les derniers kilomètres, il nous reste une heure. Et donc ça a été, on a eu quelques bouchons, on est resté bloqué à peu près une heure et quart. Les derniers kilomètres sont les plus longs, là je viens de reprendre le relais. C'est à moi d'assurer la fin, mais ça va aller. Bah, on est face à la mer normalement, donc on va aller se poser, prendre la location et puis on va aller se baigner directement.
Nous, c'était plutôt des ralentissements, donc plutôt surpris par rapport pour une journée noire. Donc je pense qu'on a eu les bons timings et oui, on avait l'angoisse effectivement. On se disait, c'est la journée noire, on va avoir... Surtout avec un bout de chou, c'est compliqué. On est à 3/4 d'heure de l'arrivée, on est plutôt content. Donc il reste le dernier goûter et après on pose nos valises. Donc, peut-être piscine, mais on va voir.
Voilà, Romain Oquet aux côtés des vacanciers sur l'autoroute A750 entre Marseille et Toulon.
Et puis attention, si vous allez sur les côtes, à la plage, mais également dans les lacs ou en piscine, c'est l'un des fléaux de l'été, la mort par noyade.
Oui, effectivement, quand les vacances virent au drame, 60 cas hein, rien qu'en juillet, une centaine depuis le début de l'année. Et devant ce constat, eh bien, de nombreuses initiatives sont prises pour rendre le plus accessible possible les cours de natation. Exemple, à la piscine L'Hôtel terre de Metz. Reportage de François Willman.
Dans cette piscine, chaque jour, une douzaine d'enfants apprend à nager. Chacun bénéficie de 10 heures gratuites à utiliser quand il le veut. Objectif, diminuer le risque de noyade chez les enfants. Au bord du bassin, c'est Arnaud Hurstel, jeune maître nageur, qui les encadre. Après les avoir testés, ils forment des groupes de niveau. Et à chaque session, la moitié des enfants, dit-il, ne sait pas nager.
On essaie de les orienter vers un 50 mètres avec du crawl et du dos, des étoiles sur le ventre et sur le dos, et puis des immersions, recherche d'objets. On a mis en place aussi un parcours un petit peu plus facile pour ceux qui n'y arriveraient pas. Et à peu près les mêmes étapes, mais c'est sur 25 mètres. Et les enfants ont confiance, ils se sentent à l'aise dans l'eau. Du coup, ils prennent plaisir à aller à la piscine. Ça apporte de l'aisance, donc du plaisir, donc de la sécurité.
À la fin des cours, les enfants peuvent jouer, s'amuser dans l'eau en toute sécurité. Ils reçoivent un diplôme qui garantit l'apprentissage des fondamentaux de la natation. Lors des baignades, la présence d'adultes est évidemment toujours nécessaire, surtout pour les plus jeunes. Et pour ceux qui veulent continuer à progresser, les maîtres nageurs proposent des stages supplémentaires. Les plus motivés peuvent même intégrer le club de natation de la piscine.
Les informations de François Willman. Pour vous, tout va bien Thierry? Vous avez nagé? Pas oui, besoin de bouée ni de brassière?
Ça va à peu près.
Bien.
Merci à vous Lionel Gougelot. Vous revenez à 18h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, les sports, mais tout de suite la météo, Valérie Darmon. Demain, encore du soleil, mais ce sera plus mitigé en Bretagne.
Absolument, et c'est plutôt bien ensoleillé sur une grande partie de la France. Toutefois, en Bretagne et sur le Pays Basque, des nuages bas sont présents en matinée. Cette grisaille se dissipera dans la journée de dimanche pour laisser la place à un ciel mitigé, alternant passages nuageux et éclaircies. Un voile nuageux va concerner également les régions allant de l'Aquitaine vers les Hauts-de-France. Il s'étend par rapport à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il ne touchait qu'un petit tiers nord et il ne gâche pas l'impression de beau temps. Les nuages d'altitude deviennent un petit peu plus denses et compactes aussi l'après-midi, donc sur le nord de la France, et des nuages bourgeonnent aussi sur les Pyrénées, donnant quelques averses orageuses. Les minimales sont assez homogènes sur le pays, de l'ordre de 13 à 16 degrés sur la moitié nord, 14 à 19 sur la moitié sud et 20 à 23 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales sont en hausse dans le sud. Elles varient au nord entre 28 et 33 degrés, 22 à 26 en Bretagne et le long des côtes de la Manche et jusqu'à 36 en Provence.
Merci beaucoup Valérie, on fera un nouveau point à 18h30.
Europe 1, 18h12.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec Alban Le Poivre. Bonsoir Alban.
Bonsoir Thierry.
Le Paris Saint-Germain remporte le premier trophée de la saison en Chine.
Les Parisiens ont remporté le traditionnel trophée des champions qui oppose, vous le savez, le champion de France en titre au dernier vainqueur de la Coupe de France, PSG Rennes donc. Victoire dans la douleur, 2-1 pour les Parisiens, Julien Froment.
Oui, on attendait clairement un match plus facile pour le Paris Saint-Germain, mais il faut croire que la machine est encore en rodage, qu'il y a froid par des Rennais réalistes, sur un but certes hors-jeu. Paris a dû attendre la seconde période pour repasser devant grâce à deux éclairs signés Mbappé et Di Maria. Une victoire synonyme de 40e trophée pour le Paris Saint-Germain dans son histoire, et le premier pour la nouvelle recrue, Abdou Diallo.
Bah, du plaisir, parce que ça reste un trophée. Ça reste un trophée, on espère que c'est le premier. Et qu'il y en aura d'autres, donc voilà, content.
Côté Rennais, cette performance contre Paris est de bon augure pour la saison à venir. Le milieu de terrain, Clément Grenier.
Je crois que dans l'ensemble, on peut vraiment être fiers parce qu'on les a fait déjouer, on les a embêtés dans leur jeu. Évidemment, on a joué assez bas, mais je crois que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Et puis sur la fin, on a malgré tout une voire deux occasions pour égaliser. Évidemment, il y a de la déception et de la frustration, mais il y a beaucoup de points positifs et qui peuvent nous encourager à faire un bon début de saison.
Retour en France pour Paris et Rennes demain. Les deux équipes auront ensuite une semaine devant eux pour récupérer. Les Rennais débuteront le championnat sur la pelouse de Montpellier. Paris, lui, recevra Nîmes au Parc des Princes dimanche prochain.
Et en marge de cette rencontre, le Stade Rennais a annoncé le départ de son gardien de but, Thomas Koubek. Il sera remplacé par le gardien du Stade de Reims, Étienne Mendy, qui était l'une des révélations de la Ligue 1 la saison dernière. La Ligue 1 qui reprend d'ailleurs dès vendredi prochain avec une affiche entre Lyon et Monaco. Et puis un mot de Ligue 2, la suite de la deuxième journée. En ce moment, le Racing Club de Lens mène 1-0 face à l'en avant Guingamp. C'est la 88e minute. En cas de succès, Lens serait co-leader de la Ligue 2 en compagnie de Clermont et de Chambly.
Alban, la Formule 1 à présent, c'est en Hongrie que ça se passe ce week-end et c'est Max Verstappen qui s'élancera demain en pole position.
Et c'est un petit événement car c'est pour lui la première pole position de sa carrière. Le pilote néerlandais qui a 21 ans, qui compte pourtant déjà 7 victoires et 26 podiums dans sa carrière, il s'élancera donc en tête demain à 15h10 pour le départ devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari est quatrième. Côté français, Pierre Gasly sur Red Bull s'élancera sixième et Romain Grosjean neuvième.
Et puis en cyclisme, du retour à la réalité pour Julien Alaphilippe.
C'est le nouveau chouchou du cyclisme français. Évidemment, sa longue épopée sur le Tour de France et ses 14 jours en jaune, il était présent aujourd'hui sur la Classica San Sebastian au Pays Basque dont il était tenant du titre. Il a abandonné après seulement 90 km. Ah ouais. Pas de communication officielle sur les raisons de son abandon. On peut estimer qu'il était peut-être un petit peu fatigué. Julien Alaphilippe, c'est son jeune coéquipier belge chez De Koninck, Quick-Step, Remco Evenepoel qui s'impose. Il a seulement 19 ans. C'est un grand espoir du cyclisme mondial. Julien Alaphilippe qui est cependant toujours attendu demain pour le Critérium d'Aix-en-Provence qui sera le seul auquel il participera avant de prendre quelques jours de vacances bien mérités.
C'était le journal des sports présenté par Alban Le Poivre. Vous revenez Alban après le journal de 19h. À tout à l'heure.
Europe 1.
Dans un instant, notre premier invité, Jacques Witkowski, c'est le directeur général de la sécurité civile. Il était à la mi-journée aux côtés de Christophe Castaner dans le Gard, après la mort hier du pilote du Tracker qui s'est crashé. A tout de suite sur Europe 1.
Thierry Dagiral sur Europe 1. Europe 1, 18h16, votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral. En ligne avec vous, Jacques Witkowski, le directeur général de la sécurité civile. Il a accompagné ce matin le ministre de l'Intérieur dans le Gard, venu rendre hommage au pilote mort hier dans le crash de son Tracker.
Bonsoir Jacques Witkowski.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous rentrez du Gard où vous étiez ce matin avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le ministre qui s'est rendu sur le lieu où s'est crashé le Tracker hier soir, peu après 17h. Il a pris le temps ce matin de saluer les équipes sur place. J'imagine que l'ambiance était bien sûr très lourde.
Évidemment, votre question implique la réponse et mes pensées vont bien sûr à la famille de Franck Chesneau qui s'est tué, comme vous le savez, hier, et puis à l'ensemble des pilotes et des équipages de la base de la sécurité civile qui, comme vous l'imaginez et comme chacun des auditeurs l'imagine très bien, sont extrêmement touchés par ce drame. Un pilote très chevronné qui, en allant secourir autrui sur, comme l'a indiqué le ministre intérieur Christophe Castaner tout à l'heure, aller secourir des vies menacées et une maison, Anna, qui était lui-même très directement menacée par les flammes, s'est écrasé. Et nous, c'est une perte irréparable à la fois pour la sécurité civile, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui luttent quotidiennement contre les feux.
Les pompiers sur place ont vu l'accident hier soir. Tous ont été encadrés par des psychologues sur place.
Bien entendu, l'ensemble des personnes qui ont assisté de près ou qui se sentent concernées par cet accident sont encadrés, s'ils le souhaitent bien évidemment, par des équipes de psychologues, de manière à pouvoir lâcher cette pression qui pèse et pouvoir ensuite reprendre les vols, car malheureusement, dès cet après-midi, dès hier soir, l'ensemble de la flotte était au combat et est rentré à la nuit aéronautique, c'est-à-dire vers 21h30, après avoir continué la lutte. Parce que malheureusement, nous ne pouvons pas cesser en ce moment de risques extrêmes sur le sud-est de la France, de cesser notre activité aérienne.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Franck Chesneau, c'était un pilote de 49 ans, un pilote expérimenté, un ancien de l'armée de l'air.
Oui, alors nous recrutons la plupart de nos pilotes dans les armées, que ce soit l'armée de l'air ou la marine nationale, et puis nous ouvrons également des postes à d'autres pilotes chevronnés. Donc tous nos équipages sont des pilotes qui ont plusieurs milliers d'heures de vol, qui sont très entraînés. Vous imaginez que piloter des avions près du sol, dans des situations de bombardement qui ne sont plus pratiquées par personne que par nous, nécessite des technicités, des capacités, des prises de risques malheureusement, comme le destin nous l'a rappelé hier, qui sont techniquement très complexes.
Jacques Witkowski, il faut bien le rappeler, sur le Tracker, il n'y a pas de boîte noire, c'est ça, à la différence des Canadairs. Ça veut dire que ça sera plus difficile de connaître les circonstances de l'accident.
Alors le Tracker est un avion effectivement d'une version ancienne qui est parfaitement entretenue, qui est en sortie de flotte progressive jusqu'en 2021, mais c'est normal puisque c'est un avion qui a une durée de vie, nous les entretenons, ils sont en parfait état de vol et nous allons les regretter énormément parce que c'est un avion qui est tout à fait adapté à la mission, qui est adoré par nos pilotes et qui remplit parfaitement son rôle. Donc c'est un avion d'une génération des années 50, la première conception, c'est pas dire que nos avions datent des années 50. Et il n'a pas d'enregistreur de vol, comme vous l'avez dit. Donc nous avons d'autres procédures d'enquête qui sont en cours, à la fois des enquêtes, une enquête pardon judiciaire qui est engagée bien évidemment, mais également ce que vous connaissez d'habitude pour, j'allais dire les accidents aériens classiques, où nous avons des enquêtes aéronautiques et administratives qui sont engagées à la fois pour la flotte d'État et la flotte civile.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le pilote a pu perdre ses repères dans la fumée épaisse?
Écoutez, pour le moment, nous avons évidemment, comme vous l'imaginez bien, décortiqué cette partie du vol. Il est bien trop tôt pour pouvoir vous donner des réponses. Ce sont vraiment les enquêtes qui devront le déterminer. Nous avons des hypothèses. Mmh. Nous en privilégions certaines, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire c'est telle chose qui s'est passée, ou telle piste. Il faut vraiment que ça soit accrédité, à la fois par les constatations au sol, par les constatations, puisqu'il y a des prises de vue également qui ont été faites, également parce que nos avions interviennent toujours sous le pilotage de notre avion, qui sert en fait d'avion de commandement, et donc qui assiste à la scène. Et c'est l'ensemble de cette cinématique et du recoupement des témoignages et des constatations techniques et matérielles qui permettront de comprendre ce qui s'est passé, donc tirer évidemment toutes les conséquences comme vous pouvez le penser.
Mais il faut bien expliquer que ces pilotes prennent des risques énormes parce qu'il faut passer le plus près de la zone de feu, bien sûr, et plus l'air est chaud, moins l'avion est porté, c'est ça, hein ?
Alors en fait, comme vous l'indiquez, il y a différents sujets. Un avion n'est pas conçu pour voler aussi près du sol. Donc nous utilisons aujourd'hui au bombardement trois types d'appareils qui sont spécifiquement équipés, conçus pour ce faire, avec des techniques d'approche très importantes. Et pour vous en donner simplement un exemple, nous ne lâchons aucun pilote à bord avant 2 ans de formation à la base. Ouais. Donc vous voyez que nous entrons des pilotes, si je puis dire, au service au ministère de l'Intérieur, déjà très chevronnés, très expérimentés, qui sont, j'allais dire, déjà reconnus dans la profession et par leur père, après un recrutement que d'aucuns nous reprochent d'ailleurs d'être un peu tatillon et d'être un peu compliqué. Et ensuite, nous ne les lâchons qu'après 2 ans de formation en moyenne. Et il faut une dizaine d'années pour devenir commandant de bord sur nos équipages et plus pour pouvoir conduire les Norias, c'est-à-dire un ensemble d'avions. Donc ce sont c'est un métier, une profession, une technique très particulière que nous possédons parfaitement. Mais comme vous l'avez dit, qui nécessite d'intervenir dans une réalité de combat, comme le feu, combattre un feu, c'est comme faire la guerre. Vous me pardonnerez ce parallélisme un peu facile en mots. Et effectivement, on passe dans des conditions d'aérologie compliquées, près du sol. Il faut garder ses nerfs et le faire plusieurs fois par jour.
Le ministre Christophe Castaner annonçait ce midi que 2 personnes avaient été interpellées, soupçonnées d'être responsables du feu. Elles ont été relâchées.
Le ministre a précisé ce qu'il en était. Moi, il ne m'appartient pas, je vais dire, de connaître les suites d'enquête. Ce n'est pas dans mes compétences. Je ne saurais aller plus loin.
Mais cela vous révolte, bien évidemment.
Écoutez, comme l'a dit le ministre, et c'est dans mon rôle de directeur général, je ne peux que condamner, bien évidemment, toutes celles et ceux qui mettent le feu en été à des ensembles patrimoniaux divers et qu'on peut voir sur ce qu'on appelle les feux de forêt ou les feux de chaume. C'est tout à fait considérablement condamnable. Et je peux ne qu'être que révolté en tant qu'homme, mais aussi en tant que responsable, j'allais dire, de la conduite des opérations en général en France, de voir que l'on expose des milliers de sapeurs-pompiers au risque, sans parler après des dégâts matériels. On en perd quand même quelquefois des maisons, du matériel, on évacue des gens au péril de leur vie. Tout ça est scandaleux. Et je sais que la justice, et nous le savons année après année, enquête, arrête et interpelle les auteurs, et c'est, j'allais dire, faire porter judiciairement et pénalement des peines très exemplaires à chaque fois qu'un auteur incendiaire est interpellé.
Pour terminer, Jacques Witkowski, plus généralement, c'est une période compliquée, il y a beaucoup de sécheresse. C'est une période à risque, bien évidemment.
Bien sûr, nous entrons en ce mois d'août dans une période extrêmement sensible. Pour avoir des feux, il ne suffit pas d'avoir de la chaleur, donc les végétaux sont effectivement secs, mais il faut du vent et un taux d'hygrométrie très faible, ce qui est le cas encore pour les quelques jours qui viennent, et je pense que le mois d'août, en tout cas pour la partie sud-est de la France, restera dans une vigilance extrême. Et donc, pour faire le lien avec votre question précédente, effectivement, la vigilance de tous est de mise, non seulement parce que c'est notre devoir de protéger notre patrimoine, mais aussi de protéger la vie des sapeurs-pompiers, des pilotes de la sécurité civile, qui exposent leur vie pour protéger toute notre patrimoine.
Bon courage à vous, bon courage à vos équipes. Jacques Witkowski, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Merci à vous d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.
Merci à vous tous. Bonsoir.
Europe 1. Europe 1, 18h25. Restez avec nous. À suivre sur Europe 1, Thierry Dagiral.
Alors Catherine, de la musique, les titres de l'actu et la météo avec encore du beau temps demain. A tout de suite.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Europe 1, 18h30, la suite de votre grand journal du soir à Thierry Dagiral.
Alors dans deux minutes, je reçois l'administrateur général adjoint du musée du Louvre. Vous savez combien il y a de visiteurs qui sont attendus cette année au Louvre, Catherine ? 11 millions. C'est énorme. Beaucoup de monde donc. Il va falloir désormais réserver pour entrer dans le musée. Mais avant cela, tout de suite le rappel des titres de ce samedi soir avec vous, Lionel Gougelot.
Du mobilier urbain saccagé, des vitrines de magasins vandalisées, violents incidents. Cet après-midi à Nantes, en marge du rassemblement contre les violences policières après la mort du jeune Steve. Une trentaine d'interpellations à la suite d'affrontements entre casseurs, Black Bloc et forces de l'ordre. Dans le Gard, Christophe Castaner assure que tout sera fait pour identifier et interpeller les responsables de l'incendie de Générac, incendie au cours duquel un pilote de Tracker a trouvé la mort. Les deux personnes interpellées hier ont été mises hors de cause. L'incendie est maîtrisé, mais toujours sous surveillance des pompiers qui resteront sur le qui-vive toute la soirée. Plus de 300 arrestations à Moscou lors d'une manifestation pour réclamer des élections libres pour le scrutin de septembre prochain. Le pouvoir maintient la pression sur l'opposition après une série d'arrestations la semaine dernière. 1400 personnes avaient été emprisonnées. Premier match officiel et première victoire de la saison pour le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 dans le trophée des champions face à Rennes. Des Parisiens qui tiennent leur revanche après la finale de la Coupe de France perdue face aux Bretons. C'est Kylian Mbappé, Angel Di Maria qui ont marqué pour le PSG et Adrien Hounou pour Rennes. Et puis Bison Futé souffle un peu ce soir. Les conditions de circulation s'améliorent en cette fin de chasse et croisée entre vacanciers sur les routes. À la mi-journée, on a compté jusqu'à 760 km de bouchons sur les grands axes. Demain dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des départs et verte dans le sens des retours.
Merci beaucoup Lionel, vous revenez à 19h pour le journal complet.
Europe 1.
Le rappel météo, Valérie Darmon, il va faire très chaud demain dans le sud-est.
Sans surprise, grand beau temps sur les plages méditerranéennes avec des valeurs sous les parasols. Entre 30 degrés par exemple au Canet et 33 à Marseille. Une eau très belle, très calme, non agitée évidemment, entre 21 dans l'Hérault et 25 dans les Alpes-Maritimes. Beau temps légèrement nuageux ou laiteux en tout cas sur les côtes de la Manche, entre Cherbourg et Dunkerque notamment. Une eau entre 19 et 20 degrés et sur les plages entre 21 et 26. Davantage de soleil sur la pointe bretonne avec une eau à 17 degrés. Beau temps également sur la façade atlantique avec davantage de nuages depuis le nord de la Gironde jusque sur l'Orient et des valeurs entre 22 et 24 degrés. Plus de soleil évidemment et des températures plus élevées à partir de l'estuaire de la Gironde jusque sur le Pays Basque et des températures en moyenne de 27 degrés pour une eau calme, un océan entre 18 et 23.
Merci Valérie Darmon, il va faire chaud donc. Alors on part tout de suite au musée.
Europe 1, 18h32. À présent, gros plan sur le musée du Louvre, victime de son succès. Plus de 10 millions de visiteurs l'an dernier, c'est 25% de plus qu'en 2017. Comme beaucoup de grands musées ou de grandes expositions parisiennes, le Louvre est débordé. Thierry Dagiral, vous recevez Vincent Pomarède, l'administrateur général adjoint du musée du Louvre.
Bonsoir Vincent Pomarède.
Bonsoir.
Ce sont 11 millions de personnes attendues pour l'année 2019 dans votre musée. C'est trop. Du coup, vous avez décidé de généraliser un système de réservation de créneaux de visite par le net, c'est ça ?
Oui, en fait, 11 millions de visiteurs potentiellement, en soi, ça pourrait ne pas être trop, à condition que tous ces visiteurs ne se présentent pas en même temps, aux mêmes heures ou le même jour de la semaine. Donc déjà l'an dernier, quand nous avions dépassé les 10 millions, nous avons décidé de mettre en place la réservation, de développer déjà l'achat des billets en ligne et la réservation qui existait. Et nous allons progressivement, d'ici la fin de l'année, passer à la réservation obligatoire pour tous les publics, y compris les publics gratuits. L'objectif étant de lisser la fréquentation du musée sur toutes les heures de la journée, sur tous les jours de la semaine, de façon à ce qu'il y ait toujours du monde, mais que le confort de visite soit garanti, que les conditions d'accès permettent de rentrer en un temps raisonnable. Avec la réservation, nous garantissons une entrée en moins d'une demi-heure.
Ouais.
Et de façon à ce que, du coup, pour le public, la visite du Louvre ne soit pas un marathon.
Mais ça veut dire que si je décide là d'aller au Louvre à la dernière minute, c'est niet, hein ?
Si, si. Alors, en revanche, en ce moment, la réservation n'est pas encore obligatoire. Donc, nous continuons à accueillir les porteurs de cartes, les détenteurs de Paris Museum Pass, les publics gratuits. Sans réservation, les Paris Museum Pass, la réservation vient d'être mise en place aujourd'hui, mais évidemment il y aura une période d'adaptation pour permettre aux gens qui n'ont pas encore réservé parce qu'ils ne savaient pas de pouvoir rentrer sans difficulté.
D'accord.
Les seuls publics qui ont parfois un petit peu de mal à entrer, ce sont les gens qui arrivent absolument sans billets, sans réservation, sans rien, dans la mesure où généralement nous n'ouvrons les caisses pour la vente sur place que l'après-midi. Donc voilà, autrement tous les autres publics rentrent. Hormis les deux ou trois jours qui ont suivi le déplacement de la Joconde, qui ont été un peu difficiles pour nous.
On va en parler. Oui.
On avait besoin d'ajuster. Où là, on a eu des difficultés d'accueil pour certains publics. Depuis, tout le monde entre. Et d'ailleurs, avec un délai d'attente qui est très raisonnable, qui est entre 5 et 10 minutes maximum à l'extérieur du musée.
Ça veut dire qu'à terme, Vincent Pomaret, vous allez prévenir les hôtels, les tours opérateurs, pour qu'ils préviennent les touristes, pour pas qu'il y ait de déception finalement ?
Alors, on l'a déjà fait, hein, on les a prévenus, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, notre communication était « si vous n'avez pas réservé, nous ne garantissons pas l'entrée dans le musée ». Donc, c'était pas du tout la même chose que de dire « la réservation est obligatoire ». Donc les gens qui sont prévoyants et qui ont cette information, évidemment, ils réservent. Et c'est le cas de beaucoup de monde parce que on a constaté une augmentation très importante depuis l'année dernière des réservations. Ça, c'est vraiment devenu le mode d'accès au musée le plus important. Mais il est clair que si on passe dans les mois qui viennent à la réservation obligatoire pour tous les publics, il faudra communiquer non seulement à tous les offices de tourisme, nos partenaires, mais aussi à certains partenaires, par exemple de l'université ou autres, pour les jeunes de moins de 26 ans qui auront à réserver, bien qu'étant évidemment des gens qui peuvent rentrer gratuitement dans le musée. Donc cette communication, elle a commencé. Et elle va se renforcer de façon à ce que le plus de monde possible ait l'information. Aujourd'hui, les grands musées qui ont mis en place cette mesure il y a un an ou deux n'ont plus du tout de problème. Tout le monde le sait. Les gens réservent généralement 3-4 jours à l'avance.
C'est ça pour vous, c'est l'avenir finalement. Tous les grands musées vont y passer.
Je pense que tous les musées qui ont une fréquentation très importante ou qui ont un chef-d'œuvre qui attire beaucoup de monde, parce que c'est aussi notre problème, hein, c'est la Joconde, qui attire 75 à 80% de nos visiteurs de toute façon. Donc tous les musées qui ont ce niveau de fréquentation sont obligés de le faire, parce que sinon vous avez des moments où vous refusez du monde, ou des moments où les conditions de visite sont extrêmement pénibles, avec du bruit, avec de la chaleur, et avec des difficultés pour voir les œuvres, tout simplement. Or, quand on va dans un musée ou dans une exposition, c'est pour voir les œuvres dans les meilleures conditions possibles. Donc la réservation, comme elle lisse la venue des gens sur toute la journée et sur toute la semaine, elle permet de venir au musée, d'être sûr de rentrer, d'attendre moins d'une demi-heure dehors, et ensuite de pouvoir être dans un musée où on a mis en place un nombre d'entrées par demi-heure et par heure qui permet de faire des visites avec un vrai confort.
Alors justement, on va parler de la Joconde, on en parlait il y a un instant, c'est un peu le clou du spectacle, vous le disiez. Il y a eu déception lorsqu'elle a été déplacée, et pourquoi elle a été déplacée ?
Alors, il n'y a pas eu de déception quand elle a été déplacée, parce que les gens, en fait, tous ceux qui sont venus la voir, d'ailleurs que ce soit des touristes ou des professionnels, ont constaté qu'on la voyait en fait beaucoup mieux. Pour une raison toute simple, c'est que là on a un verre qui est un verre toujours anti-balle, mais qui est anti-reflet et qui est extra blanc. Alors que dans la salle des États où elle est présentée d'habitude, la vitrine qui est une vitrine un peu ancienne, qui date de 2005, n'a pas un vert complètement anti-reflet et n'a pas un vert extra-blanc. Donc effectivement, on la voit moins bien et quand on fait des photos, c'est plus difficile. Par ailleurs, l'éclairage de cette vitrine provisoire est également de très haute qualité. Les gens la voient bien, donc en fait, ils restent beaucoup plus longtemps devant parce qu'ils ont encore plus envie de photographier, de faire des selfies, etc. Donc ça, c'est une des raisons des difficultés. Donc je pense que les publics qui sont venus, et d'ailleurs les gens sont contents, tous ceux qui sont passés devant quand ils sortent, on a l'impression qu'ils ont vu une star, enfin, en tout cas, ils ont un sourire radieux. Ce qui était plus compliqué, les premiers jours, c'était l'accès à cet espace, puisque donc nous l'avons mis dans l'aile Richelieu, dans la galerie Médicis, qui est la plus grande salle en fait du musée. Mais l'accès à cette galerie, en fait, est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on prend des escalators. Et entre l'entrée de l'aile Richelieu et le tableau dans sa vitrine, on met 5-6 minutes maximum. Contrairement à l'aile Denon, où elle est présentée d'ordinaire, où généralement les visiteurs voient d'autres œuvres, photographient d'autres chefs-d'œuvre et mettent une heure ou une heure et quart pour arriver devant. Donc on a eu un problème de régulation des flux. Et la déception, elle est évidemment du côté des gens qui, à cause de cette régulation des flux, ont attendu longtemps ou n'ont pas pu rentrer, puisque à un moment, on a été obligé effectivement de refuser certains publics parce qu'on était en difficulté de flux à l'intérieur du musée. Donc cette situation, elle a duré les 2-3 jours après le déplacement. Il fallait qu'on ajuste, en fait, hein, notre manière de travailler, d'organiser les flux, de créer des files d'attente qui ne duraient pas trop longtemps pour que les gens avancent tout le temps pour arriver au tableau le plus rapidement possible. Aujourd'hui, maintenant, on a le recul de plus de 10 jours et en fait, honnêtement, il n'y a plus aucun moment dans la journée où on a des difficultés. C'est fluide et les gens, entre l'entrée dans le musée et le tableau, quand ils y vont directement, ce qui est la majorité des cas, ils mettent un quart d'heure, 20 minutes maximum.
Vincent Pomaret, je voudrais qu'on parle de la rentrée avec une grande expo à l'occasion des 500 ans de la mort, bien sûr, de Léonard de Vinci. Grande expo qui commence en octobre, c'est ça ?
24 octobre. Nous inaugurons la veille et l'ouverture au public est le 24 octobre.
Un problème de liaison qui nous empêche de continuer cette interview. En tout cas, on a bien compris qu'il faudra désormais réserver pour cette exposition Léonard de Vinci, hein, qui débute donc en octobre jusqu'en février 2020, et pour aller visiter désormais le musée du Louvre. Vincent Pomared, l'administrateur général adjoint du musée du Louvre, avec nous ce soir. Merci à vous.
Europe 1, 18h40, la suite de votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral.
Il est l'animateur de slam de la carte au trésor et demain il présentera la grande parade des nations celtes sur France 3. On va passer un coup de fil à Cyril Ferraud dans un instant.
C'est l'interview média, bon début de soirée sur Europe 1.
Thierry Dagiral.
Et jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral, c'est le moment de l'interview média.
Allez Catherine, écoutez, on va se mettre dans l'ambiance. Bonsoir Cyril Ferraud.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Vous êtes à Lorient ?
C'est ça. Je suis à Lorient.
C'est ça autour de vous.
Et j'ai des cornemuses, j'ai des bombardes, j'ai des binious autour de moi, j'ai même des gaïtas, figurez-vous, la cornemuse espagnole, donc je suis en plein dedans.
Parce que demain, Cyril, vous allez présenter sur France 3 à 15h la grande parade des nations celtes. Ça consiste en quoi ? C'est pas la première fois, vous êtes un habitué maintenant.
Oui, c'est ma 5e année maintenant au Festival de Lorient. Alors la parade de Lorient, si vous voulez, c'est l'ensemble des artistes qui vont se produire pendant ce festival, c'est-à-dire plus de 3000 artistes qui défilent dans les rues de la ville avec leurs costumes traditionnels, avec leurs instruments qu'on voit assez rarement quand même, parce que la cornemuse, mine de rien, la bombarde, le biniou, la caisse claire, ben, ce sont des instruments dont on n'a pas l'habitude quand vous allez à Bercy voir Madonna ou Britney Spears. Donc on en profite à Lorient, et surtout c'est l'occasion de voir à quel point tous ces amoureux des cultures celtes se retrouvent chaque année pour faire la fête tous ensemble. Alors il y a les pagadous bretons, le bagad de l'Anbiwe par exemple, il y a ce qu'on appelle les pipe bands, c'est-à-dire les formations d'origine militaire à l'époque, qui viennent d'Écosse ou d'Irlande, il y a les claquettes irlandaises, il y a les chœurs gallois, et puis il y a des plus petites régions celtes entre guillemets, comme la Galice par exemple, cette petite province espagnole qui est l'invitée d'honneur cette année, et puis il y a les groupes de danse, bref, il y en a pour tous les goûts.
Et ça
dure pendant 3 heures.
Cyril, vous qui venez du Sud, vous êtes devenu un spécialiste de la culture celte.
Ah bah il a fallu, parce que quand il y a 5 ans on m'a confié les rênes du festival interceltique, très sincèrement j'y connaissais pas grand chose. Donc voilà, donc moi qui ai une formation de journaliste, j'ai appris tous ces instruments, j'ai appris les costumes, toutes ces régions, et surtout pourquoi tous ces gens avaient cet amour de la culture celte. Et je vais vous dire, c'est ça qui m'a intéressé et qui a fait que j'y reviens chaque année avec plaisir. C'est la transmission en fait, le plus important. C'est que chaque année, moi je vois ici des bouts de choux qui ont 5, 6, 7 ans et qui viennent défiler, qui viennent sur scène avec leurs parents, leurs grands-parents, parfois leurs arrière-grands-parents, parce que cette transmission et cet amour s'est transmis de génération en génération. Et ça, je trouve ça assez magique.
C'est une vraie fête populaire, en effet, à chaque fois.
C'est populaire, et alors je vais vous dire, moi ça me rappelle l'Eurovision. J'ai présenté pendant 3 ans l'Eurovision sur France 3, et de voir toutes ces nations rassemblées, avec toutes ces nations avec des cultures, des modes de vie différents, des religions parfois différentes, rassemblées pendant une semaine ici pour faire la fête autour de la musique, je trouve ça génial.
Voilà. L'an dernier, l'édition 2018 du spectacle s'est hissée en deuxième position des audiences grâce à une moyenne de 2,3 millions de fidèles. La part de marché atteint près de 15%. Ce sont des scores hallucinants, hein. Vous espérez plus demain ou pas?
On espère toujours plus. Après, vraiment, le Festival Interceltique fait partie des meilleurs scores de France 3 chaque année, parce que je pense que les Français, quels qu'ils soient bretons ou pas, sont attachés à leur tradition. Mmh. Et de voir des gens de tous les âges, et beaucoup, beaucoup de jeunes, parce que ça, c'est vraiment le truc que je veux mettre en avant. Je pense que, à mon avis, il y a plus de la moitié des gens qui participent au festival, qui défilent, qui ont entre 20 et 30 ans. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui y participent et qui sont fiers de montrer leur amour. Et je pense que c'est ça qui est téléspectateur. Mais c'est pour ça que chaque année, ça fait partie des meilleurs scores de la chaîne.
C'est important que France 3 propose ce programme, hein. C'est vraiment l'ADN de la chaîne pour le coup.
C'est la chaîne des régions, donc vraiment, alors déjà les Bretons sont très fiers de leur culture et très fiers de leur région, donc c'est normal, un, que ce soit sur France 3, et deux, qu'on donne une place très importante. Donc demain, c'est à partir de 15h, la grande parade, et puis il y aura ce qu'on appelle le grand spectacle du Festival Interceltique,
qui sera le 14 août
à 21h, ouais. Voilà, ça c'est le spectacle qui rassemble les 3000 artistes du festival au stade du Moussoir, donc dans un grand stade de foot, avec son lumière, pyrotechnie, et vraiment tout ce qu'il y a de mieux en matière de spectacle aujourd'hui.
Cyril, il nous reste peu de temps. Un petit mot de votre entrée. Toujours la carte au trésor, toujours, bien sûr, Slam.
Alors, Slam et Personne n'y avait pensé, qui sont mes deux jeux quotidiens. 16h45 le premier, 17h30 le second. Ouais. La carte au trésor qui revient avec 8 épisodes inédits à la rentrée, dont le premier qui sera dans les Côtes d'Armor d'ailleurs. Donc, vous voyez, je suis toujours attaché à la Bretagne. Et puis, tout un tas de rendez-vous de spectacles vivants, le festival du Cirque de Monte Carlo, Musique en Fête, qui est la fête de la musique classique de France 3. Et puis, une nouveauté pour moi, c'est des variétés à la rentrée avec le grand concours des corps que je vais présenter en direct, où on va élire la plus grande chorale de France sur France 3.
Cyril Ferraud, demain 15h sur France 3 pour les meilleurs moments de la grande parade de l'Orient dans le cadre, bien sûr, du festival Interceltique. Merci, un grand merci à vous, Cyril.
Merci Thierry, merci à tous.
Europe 1, il est 18h47. À suivre, Thierry Dagiral.
Alors, on quitte l'Orient, direction le Puy-en-Velay, 813 km. On a rendez-vous dans quelques minutes avec Marion Sauveur pour sa balade gourmande. On va cuisiner la lentille, Catherine. À tout de suite.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
18h51 sur Europe 1, c'est l'heure de notre balade gourmande, Thierry Dagiral, à la découverte des spécialités culinaires de nos régions.
Oui, de nos belles régions, en effet. Bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
J'adore ce moment. Où allons-nous planter notre fourchette ce soir, Marion?
Eh bien, je vous emmène en pleine nature, écoutez.
On est où là? Dans un champ.
Oui, au milieu d'un champ de lentilles vertes du Puy, exactement, en Haute-Loire. Et en ce moment, c'est la pleine récolte de ce légume sec qui bénéficie de l'appellation d'origine protégée. Alors, la lentille verte du Puy pousse non pas au Puy-en-Velay, mais autour du Puy-en-Velay. C'est sur une terre volcanique bien rouge. 87 communes font partie de l'appellation d'origine protégée. Et cette lentille, elle est verte avec des marbrures bleu-vert et elle est très riche en fibres et en protéines, ce qui lui vaut Bordeaux le surnom de « viande du pauvre ». La lentille, c'est un légume sec parfait en été, en salade avec quelques oignons,
c'est
un
bon,
œuf
ça.
Mollet avec le jaune, vous savez, qui coule, qui dégouline sur les lentilles, et puis une vinaigrette bien moutardée. Et puis bien sûr, en plat d'hiver avec le petit salé aux lentilles, c'est la gourmandise à l'état pur. Alors, la lentille verte du Puy n'a pas toujours poussé en Auvergne, comme me l'a expliqué le producteur de lentilles vertes du Puy, Jean-François Bureau.
Au départ, elle venait d'Asie centrale, mais elle avait été cultivée en zone méditerranéenne. La couleur était différente, la peau était plus épaisse et son amande aussi plus farineuse. C'est une lentille qui est cultivée, on pense, depuis plus de 2000 ans sur la zone d'appellation du Puy-en-Velay, puisque des lentilles ont été découvertes dans des poteries gallo-romaines dans le secteur de Saint-Paulien, c'est au cœur de la zone d'appellation. Et on s'est rendu compte que cette lentille, lorsqu'elle a été implantée sur la zone d'appellation du Puy-en-Velay, sa peau était devenue extrêmement fine et son amande moins farineuse, grâce au climat et au terroir.
Et c'est ce climat et ce terroir qui lui donnent ce petit goût de noisette si délicat.
Alors Marion, maintenant on prend des notes. Comment on peut cuisiner cette lentille?
Alors il y a quelques petites astuces pour bien réussir sa cuisson. Voici donc les conseils de Jean-François Bureau.
Mettre ces lentilles à l'eau froide et les faire cuire pendant environ 17 à 20 minutes. Les fondant en bouche et c'est là qu'elles conservent toutes ses qualités nutritives. Alors que si on prend des lentilles d'ailleurs, ou des lentilles blondes, il faut souvent les faire tremper avant et il faut 35 à 40 minutes pour les faire cuire. Pendant la cuisson, surtout pas de sel. Le sel durcit les aliments. Si on veut conserver toutes ces qualités nutritives, il faut attendre vraiment le dernier moment pour apporter le sel. Si c'est pas de la purée en fin de cuisson, elle garde toujours cette couleur vert. Elle perd un peu sa couleur vraiment vert foncé, quoi. Mais elle reste verte.
Et puis dans l'eau de cuisson, vous pouvez ajouter un oignon piqué de clous de girofle, un bouquet garni, pourquoi pas. Ça va aromatiser vos lentilles et vous n'avez plus qu'à les agrémenter. Et puis ce qui est pratique aussi avec les lentilles, c'est qu'elles se conservent très bien, mais plus elles vieillissent, plus elles sont longues à cuire. Il faut donc les consommer dans l'année de leur récolte.
Alors Marion, comme chaque week-end, nous invitons un chef sur Europe 1 qui revisite la spécialité que vous nous présentez. Bonsoir Corinne Moreau.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes la chef de l'âme des poètes au Puy-en-Velay, joli nom. Vous êtes situé au pied des marches de la cathédrale. Vous réalisez au quotidien une cuisine végétarienne en mettant à l'honneur les produits de qualité. Et vous aimez travailler la lentille verte du Puy, hein ?
Oui, tout à fait.
Quel est votre plat signature, on va dire ?
Eh bien, du coup, ce sont des lasagnes aux lentilles vertes du Puy et ses légumes.
Et comment ça se réalise ? Racontez-nous.
Alors, eh bien, Marion a bien résumé la cuisson de la lentille.
Ouais.
Du coup, on va cuire nos lentilles dans un courbouillon, comme elle l'indiquait. Et à côté, on va travailler trois légumes. Donc, on aura la patate douce, le fenouil et le céleri rave. On va l'agrémenter d'ail, de sauce tomate, d'herbes fraîches. On va laisser mijoter et ensuite on va monter nos lasagnes, enfin pâte à lasagne, lentilles, pâte à lasagne, etc. Et on l'agrémentera d'une béchamel ou d'une crème de vache ou même d'une crème végétale. Après c'est au bon vouloir et à l'envie qu'on en a.
Donc c'est vrai ce que disait Marion à l'instant, hein, la lentille c'est la viande du pauvre, c'est ça? C'est-à-dire que là vous remplacez justement la viande par la lentille?
C'est ça. La lentille c'est une légumineuse qui contient beaucoup de protéines, en l'occurrence de glucides, de minéraux et d'oligo-éléments.
Ouais.
Alors Marion l'appelle la viande du pauvre.
Oui, elle a dit ça tout à l'heure. Hein,
alors, pas moi. Moi, je l'appelle le diamant vert.
Vous appelez ça comment, pardon?
Le diamant vert.
Le diamant vert, oui, c'est joli.
Ah, je préfère.
Comme on peut l'appeler le caviar végétal aussi, d'ailleurs.
Aussi.
Hein. Surenchère. Dites-moi, c'est une recette que vous avez adaptée, qui était celle de votre frère, c'est ça?
C'est ça. J'ai le restaurant depuis 13 ans.
Ouais.
J'ai repris le restaurant en 2006. Mon frère avait le restaurant auparavant pendant 8 ans. J'avais travaillé avec lui. Il est décédé brutalement.
Ouais.
Et on a repris le restaurant avec mes deux sœurs pour pouvoir le garder. Elles sont parties parce qu'elles ne sont pas de la partie. Elles avaient déjà un travail. Moi, je suis restée parce que j'adore la cuisine. Ça me parle et je suis bien dans mon restaurant.
Ouais, c'est votre
et cette recette, effectivement, me vient de mon frère. Et elle apparaît sur la carte du restaurant au menu clin d'œil. C'est un clin d'œil.
Alors,
que je lui
il la faisait avec de la viande, hein, votre frère, hein.
C'est ça, il la faisait avec la viande. Moi, je l'ai déclinée après parce que je fais une cuisine végétarienne depuis 3 ans.
Oui.
Donc pendant 10 ans, j'ai fait une cuisine traditionnelle, mais toujours avec des produits de qualité très importants. C'est la base.
Et pourquoi, Corinne, vous êtes passée à la cuisine végétarienne depuis 3 ans?
Alors, c'est la souffrance animale, au départ, qui m'a interpellée.
Ouais. Mmh, vous n'avez pas surfé sur l'air du temps, etc.?
Non, absolument pas. Je suis rentrée de voyage et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer, mais la souffrance animale m'a touchée vraiment au cœur. Et j'ai décidé d'arrêter de cuisiner de la viande et du poisson.
Parfait. Il y a un engagement, un vrai engagement.
Et c'est une super cuisine, magnifique, vraiment. Ouais.
Merci beaucoup Corinne Moron. On retrouve votre cuisine végétarienne au pied des marches de la cathédrale du Puy-en-Velay. Au restaurant, j'adore ce nom, l'âme des poètes.
Oui, et puis le cadre est magnifique.
Il y a une très belle terrasse.
Attention, on va passer vous voir. Hein. On va venir. On va venir.
C'est magnifique.
On va venir.
Simplement, je voulais juste faire un petit coucou à l'équipe qui m'accompagne en cuisine, justement, mon équipe du restaurant. Je voulais leur dire un grand merci d'être là. Avec eux, on fait un super boulot.
Merci, un grand merci à vous Corinne, merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Si vous passez en Haute-Loire, sachez que le week-end du 17 et 18 août, je vous conseille la fête des lentilles, c'est à Rosières, où vous pourrez d'ailleurs déguster les traditionnelles saucisses lentilles, Thierry.
Merci Marion. Demain, on part avec vous dans un autre coin de France.
Et oui, on va en Provence pour déguster la gourmandise de Marseille, ce sont les navettes.
Vous savez quoi, l'Auvergne et Marseille, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir Marion. Merci beaucoup, à demain.
À demain. Europe 1. Europe 1, 18h58.
Et dans deux minutes, le journal de 19h, nous reviendrons notamment sur les manifestations tendues cet après-midi à Nantes.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1. 18h, 20h,
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Restez avec nous à 19h15, je recevrai David Lebars, syndicaliste policier au sujet des manifestations à Nantes cet après-midi. 19h30, on va prendre la route de vos festivals d'été, des festivals authentiques, atypiques avec Thierry Geffrotin. Et puis à 19h48, retour sur Actu, on va revenir sur le jour où Donald Trump a marché en Corée du Nord avec le spécialiste des États-Unis Corentin Célin.
Bonne soirée sur Europe 1, il est 19h. Le grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Et l'essentiel de l'information à 19h avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Les premiers éléments permettent d'avancer des hypothèses sur les causes de l'accident qui a coûté la vie au pilote du bombardier d'eau hier au-dessus de l'incendie de Générac. Christophe Castaner assure que tout sera fait pour identifier les responsables de ces départs de feu. Manifestation sous haute tension à Nantes cet après-midi, rassemblement pour dénoncer les violences policières après la mort du jeune Steve. Affrontement entre casseurs et forces de l'ordre, des dégâts sur le mobilier urbain, quelques vitrines de magasins, une quarantaine d'interpellations selon un dernier décompte de la préfecture. Et puis le football de Paris Saint-Germain remporte le trophée des champions 2019 en battant Rennes 2-1. On y reviendra bien sûr dans le journal des sports tout à l'heure avec Alban Le Poivre.
Europe 1. Lionel, les pompiers du Gard restent sur le qui-vive ce soir après l'incendie de Générac qui a ravagé 800 hectares de forêt depuis mardi dernier.
Un secteur toujours sous haute surveillance même si le feu est maîtrisé. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est venu saluer les soldats du feu ce matin. Il a également rencontré l'épouse du pilote du Tracker qui a perdu la vie hier en luttant contre le feu. Ancien pilote de l'armée de l'air, c'était un pompier du ciel expérimenté. Et l'enquête se poursuit pour déterminer Rémi Botsaron ce qui a bien pu provoquer son crash.
Oui, d'après les premiers éléments de cette enquête, le pilote aurait en fait perdu ses repères alors qu'il traversait une épaisse colonne de fumée. Il était à ce moment-là en phase descendante et il aurait percuté la cime des arbres avant de s'écraser. Il s'agirait donc d'un problème d'estimation du pilote. L'enquête menée notamment par le bureau enquête accident devra le déterminer. En tout cas, on le répète, c'est un accident rarissime, d'autant que ces pilotes de bombardiers d'eau sont très expérimentés. C'était le cas aussi de ce pilote, prénommé Franck. Il avait une formation de pilote de chasse. Il avait piloté des Mirage 2000, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Christophe Castaner. En fait, on peut même dire qu'il faisait partie d'une élite, ce petit cercle de pilotes de bombardiers d'eau qui sont pour la plupart d'anciens militaires qui se connaissent tous. On a également appris aujourd'hui qu'il était pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône, là qui vient compléter le portrait de ce père de deux enfants qualifié de héros français par Emmanuel Macron.
Et justement, d'après nos confrères du Midi Libre, Emmanuel Macron pourrait assister aux obsèques du pilote de Tracker mardi prochain, information qui toutefois n'est pas encore confirmée pour l'instant par l'Élysée. J'ajoute que les deux personnes interpellées hier dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Générac ont finalement été remises en liberté. Elles ont été mises hors de cause.
Il n'en reste pas moins que l'émotion et la colère restent très fortes sur place.
Oui, effectivement, à l'image de Jessica, vous allez l'entendre, elle est mananière du village de Saint-Gilles à côté de Générac. Elle est venue en aide hier à des voisins qui ont pratiquement tout perdu dans l'incendie et elle est scandalisée par ces départs de feu.
J'arrive pas à comprendre les gens qui arrivent à allumer un feu juste par plaisir de voir des flammes et... Ça nous met un sentiment de colère, de révolte et des fois on a envie de dire à la justice, ne les considérez pas comme des malades. Il n'est pas malade, il a tué quelqu'un. Hier, il y a un pilote qui est mort. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants, à l'heure actuelle, aujourd'hui, qui ne reverront pas leur papa. Et c'est ça le plus dur. Grâce aux pompiers, grâce aux Canadair, on n'a pas perdu de gens qui sont morts dans leur maison. Mais lui, il est mort au feu. Donc après, on peut parler que ses avions étaient vieux. J'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre que ses avions étaient vieux. Il a quand même pris son avion, il a quand même essayé d'éteindre un feu et il est quand même mort. Et c'est pas parce que l'avion était vieux qu'il est mort, c'est parce que quelqu'un a décidé que c'était rigolo d'allumer un feu alors qu'on venait de passer un gros feu mardi dernier. J'ai pas envie de dire que cette personne est malade, j'ai envie de dire que ce monsieur est un criminel. Il a blessé des millions de gens et il a tué une personne.
L'émotion et la colère de Jessica, habitante de Saint-Gilles près de Générac, au micro de Victor Dolande.
Direction Nantes à présent avec une journée sous haute tension en marge de la manifestation contre les violences policières suite à la mort de Steve Maya Canisso.
Oui, des scènes d'affrontement entre casseurs et forces de l'ordre, jets de projectiles contre gaz lacrymogène, des dégâts sur le mobilier urbain, des vitrines de magasins saccagées après l'intervention des Black Blocs. Des manifestants ont même tiré une fusée d'alarme en direction de l'hélicoptère de la gendarmerie nationale qui survolait la zone. Il y a eu une quarantaine d'interpellations parmi les manifestants selon un dernier décompte de la préfecture. Une situation qui a donc dégénéré, au regret d'ailleurs de certains participants comme Rémi, rencontré par Yasmina Katou.
Ce que je dénonce, c'est l'engrenage de la violence, l'engrenage de la haine entre le peuple et sa police. C'est ça que je dénonce. Ça, c'est pas normal. Dans un pays comme la France, on ne doit pas détester notre police. On n'est pas en guerre. Certes, il y a un problème en ce moment, depuis un an, depuis 8 mois, 9 mois, il y a un problème. Et le gouvernement, s'il n'est pas capable de soutenir ou de respecter son peuple, il doit laisser quelqu'un de plus compétent à sa place pour le gérer. Ainsi, la situation s'arrêtera de s'aggraver. Ça m'est arrivé à certains moments, dans certaines manifs, de voir des choses tellement incroyables que j'avais la haine contre la police. Mais en y réfléchissant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? À part le chaos, la douleur, le sang, les morts, ça ne nous apportera jamais quelque chose de bien. Eux sont assez intelligents pour comprendre qu'on est un seul et unique peuple et on doit se mettre ensemble contre ce gouvernement qui protège l'oligarchie et qui méprise son peuple. Ce gouvernement, Macron, Castaner, ils doivent s'en aller. Tant que ce ne sera pas le cas, nous, peuple de France, nous continuerons à venir à Nantes, à Paris, dans toutes les grandes villes françaises et on ne lâchera pas.
Au témoignage de Rémi, manifestant cet après-midi à Nantes, les propos recueillis par Yasmina Katou. Et puis d'après les informations du service police-justice d'Europe 1, il y avait 1700 manifestants dans les rues cet après-midi à Nantes, parmi lesquels 400 personnes black bloc ou identifiées comme activistes.
Et puis à 19h15, on reparle de cette manifestation avec David Lebars, secrétaire général du syndicat de commissaires de police.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, on parle de la situation en Russie où le pouvoir accentue la pression sur les opposants à nouveau dans la rue aujourd'hui.
18h, 20h,
votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Europe 1, 19h07, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, Lionel Gougelot.
Ouais, Lionel, en Russie, nouvelle mobilisation des opposants à Vladimir Poutine cet après-midi dans les rues de Moscou.
Manifestation d'opposants qui continue, vous le savez, de réclamer des élections libres à l'occasion des scrutins locaux qui doivent se tenir dans le pays en septembre prochain. Et comme la semaine dernière, Frédéric Michel, il y a eu cet après-midi de nombreuses arrestations.
Effectivement, on appelle cela la politique du bâton, en interpellant à tour de bras plus de 300 personnes cet après-midi, 1400 arrestations. Le week-end dernier, le Kremlin fait monter la pression sur l'opposition et pourtant, cette nouvelle manifestation non autorisée, manifestation pour des élections libres, a nettement moins attiré. Ils étaient à peine un millier dans les rues de Moscou, sans leader et pour cause, ils ont presque tous été emprisonnés il y a une semaine. Alors Vladimir Poutine, qui ne commente que très rarement et à de très rares occasions les actions de son opposition, semble cette fois déterminé à tuer dans l'œuf ce mouvement de contestation, l'un des plus importants de ces dernières années. L'étau se resserre également autour du principal opposant, Alexei Navalny. Une enquête pour blanchiment a été ouverte contre son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, à l'origine de nombreuses révélations sur le train de vie et les combines des élites. Dernière cible, une adjointe au maire de Moscou, soupçonnée d'avoir détourné des milliards de roubles d'argent public. Cette organisation est très présente sur les réseaux sociaux où ses publications sont abondamment partagées, notamment celles accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier.
Merci Frédéric Michel. L'actualité ce soir, c'est aussi l'optimisme de Frankie Zapata à la veille de sa nouvelle nouvelle tentative, vous le savez, de traverser de la Manche en flyboard. Eh bien, le Français pense avoir beaucoup plus de chances de réussir son coup que pour sa première tentative. Francky Zapata a affirmé aujourd'hui à Sangatte, sur la Côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, où il a fait une conférence de presse. Il affirme avoir beaucoup appris de son premier échec. Les vents n'ont pas changé, dit-il. Je pense que ça va le faire. Fin de citation. Et on verra le résultat demain matin.
Alors, je souhaite le meilleur. C'est devenu un vrai rendez-vous du début du mois d'août. Les nuits des étoiles qui nous font tous les ans lever le nez au ciel dans la douceur nocturne de l'été.
Vous êtes un peu poète, là,
oui,
Thierry, ce soir. 500 manifestations à travers toute la France depuis hier et jusqu'à demain soir. Et pour découvrir les richesses de la voûte céleste, pour bien en profiter, eh bien, il nous faut bien évidemment quelques conseils, ceux d'Alain Sirot, le consultant ciel et espace d'Europe 1.
Le ciel est accessible de partout, à condition, effectivement, qu'il fasse beau, et puis ensuite, qu'on limite les pollutions lumineuses, c'est-à-dire qu'on baisse un peu les lumières alentour, et à partir de là, on va d'abord voir les objets les plus brillants. C'est la Lune, ce sont les planètes, c'est les étoiles principales des constellations du ciel d'été, Véga de la Lyre, Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle, et puis au fur et à mesure que les lumières baissent, donc là, on va s'éloigner des villes pour le compte, eh bien, l'œil, c'est un petit peu, l'œil humain, c'est comme les chats, vous voyez, ça se dilate au fur et à mesure du temps, quand le noir arrive, et là on accède au Graal, c'est-à-dire aux étoiles faibles, à la Voie lactée, et lorsqu'il fait parfaitement noir dans un site idéal, eh bien on est un peu comme un passager devant la proue d'un navire, regardant défiler le ciel sous nos yeux, comme la Terre roule comme un navire finalement. Alors par exemple, en région parisienne, on va dans un parc comme celui d'Univers Sciences, la cité de la Villette, ou on va à Montrouge. Vous savez, c'est l'endroit le plus dense dans la région parisienne, et on monte au sommet du Beffroi de Montrouge pour regarder le ciel.
Alain Sirot, consultant d'Europe 1, directeur de la publication du magazine Ciel et Espace.
Lionel Bison Futé, soulagé ce soir. Ouais. Les conditions de circulation s'améliorent en cette fin de chassé-croisée entre vacanciers sur les routes.
À la mi-journée, on a compté jusqu'à 760 km de bouchons, chiffre actualisé sur les grands axes. Claudia Bertram, j'ai une seule question pour vous ce soir. Y a-t-il encore des difficultés?
Alors, globalement, la circulation se fluidifie sur l'ensemble des axes routiers. Ça roule beaucoup mieux dans la vallée du Rhône, l'un des plus gros points noirs de la journée. Il n'y a plus de perturbations sur l'autoroute A7 en direction de Marseille, mais ça bouchonne encore un petit peu en ce début de soirée dans l'ouest de Nantes. Vers Brest, il y a 10 km de bouchons. Et pour demain, beaucoup de vacanciers sont attendus sur les routes encore. Journée classée orange dans le sens des départs. Mais pour ceux qui rentreront de vacances, petite consolation, ça devrait bien rouler, excepté tout de même dans la vallée du Rhône, classée orange. La circulation sera dense et bien souvent difficile aussi sur l'arc méditerranéen, sur les autoroutes A7, A8 et A9. Des difficultés particulières sont attendues aussi sur la 10 à hauteur de Bordeaux vers l'Île-de-France.
Merci Claudia, en tout cas pour ceux qui sont arrivés sur leur lieu de vigiliature. On leur souhaite des bonnes vacances.
Exactement, merci à vous. C'était le journal de Lionel Gougelot. La météo à présent, Valérie Darmon, encore du beau temps demain, mais on revient avec vous sur les fortes chaleurs dans le sud-est demain, c'est ça?
Oui, effectivement, des maximales qui s'envolent encore par rapport à ce samedi, avec 37 annoncés à Nîmes, à Lombre et Sous-Abri, 36 à Avignon, 35 à Carcassonne et à Cahors, 34 à Brive-la-Gaillarde et à Albi, 33 degrés à Lyon, à Paris et à Montauban, 32 à Bourg-en-Bresse, 31 à Besançon, à Lons-le-Saunier et à Reims, 28 degrés à Nice et à Tarbes, 27 à Nantes et Dunkerque, 23 à Saint-Brieuc et Quimper, sous un ciel un petit peu plus mitigé sur les régions de l'ouest et du nord-ouest, avec des éclaircies mais aussi des passages nuageux, parfois nombreux, venant de l'Atlantique, des brumes de mer qui peuvent se former aussi sur les côtes bretonnes et le Pays basque, mais il ne pleuvra pas, et puis des orages isolés qui vont se produire en fin de journée en haute montagne. Sinon, vous l'avez compris, c'est grand beau.
Merci Valérie Darmon.
Europe 1, 19h12.
Le journal des sports.
Avec Alban Lepoivre. Bonsoir Alban.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Nouveau succès pour le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions cet après-midi.
Victoire 2-1 face au Stade Rennais. C'est la 7e fois de rang que le PSG remporte ce trophée qui oppose traditionnellement le dernier champion de France au vainqueur de la Coupe de France. C'était donc à Shenzhen en Chine. Paris était pourtant mené 1-0 à la pause, mais les buts de Mbappé et Di Maria ont permis aux Parisiens de s'imposer, non sans connaître certaines difficultés, concède le défenseur brésilien du PSG, Marquinhos.
On a mal débuté le match. Pendant les 15 premières minutes, on avait un peu plus de difficultés. Après les 30 dernières minutes, ça allait mieux. On a réussi à bien presser, on a réussi à avoir la possession. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à marquer. Et on prend ce but bêtement avec un but en hors-jeu, mais voilà, il fallait mieux défendre. Je pense que c'est les détails. Une finale, c'est les détails qui comptent. Et bon, et après, en deuxième mi-temps, on savait ce qu'il fallait faire. Continuer à faire ce qu'on a fait dans les dernières minutes de la première mi-temps, qu'on allait changer l'histoire de match, et on a fait.
Marquinhos, le Brésilien, au micro de Julien Froment. Le PSG qui débute sa saison de Ligue 1 dimanche prochain face à Nîmes. La Ligue 1 qui débutera vendredi prochain avec une affiche entre Lyon et Monaco. Lyon qui a lourdement perdu 3-0 cet après-midi face au club anglais de Bournemouth. Un mot de Ligue 2, le RC Lens co-leader après son succès 2-0 face à Guingamp cet après-midi. Et puis Lionel Messi, suspendu 3 mois avec l'équipe d'Argentine pour ses propos contre l'arbitrage cet été lors de la Copa América. Une suspension effective uniquement avec son équipe nationale. Il sera, rassurez-vous, supporter de Barcelone et de Lionel Messi, opérationnel pour le début de saison avec le club catalan.
La Formule 1, à présent, fait escale en Hongrie ce week-end avant la trêve estivale. Et c'est Max Verstappen qui s'élancera demain en pole position.
Il a réalisé le meilleur temps des qualifications cet après-midi devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Un paradoxe pour Verstappen, pilote aux multiples succès mais qui n'avait jamais signé de pole position dans sa carrière, Marie Guida.
Il aura fallu 92 Grands Prix à Max Verstappen pour signer sa première pole position de sa carrière. Il devient ainsi le 100e poleman de l'histoire de la Formule 1, mais aussi le premier néerlandais à décrocher une pole position. À 21 ans, il possède déjà une solide expérience avec 7 victoires au compteur, mais également une réputation de bagarreur sur la piste, un caractère qui lui a déjà valu quelques remontrances de la part des autres pilotes, mais une personnalité qui plaît auprès des fans de Formule 1. Pilote de talent comme il l'a démontré la semaine dernière en Allemagne, en s'imposant dans des conditions difficiles sous la pluie, il a toutes les cartes en main pour être un potentiel champion du monde dans les années à venir.
Marie Guida du service des sports d'Europe 1, départ du Grand Prix de Hongrie demain à 15h10, a noté la 4e place du monégasque Charles Leclerc sur Ferrari. Côté français, Pierre Gasly s'élancera 6e, Romain Grosjean 9e.
Et puis en cyclisme, Julien Alaphilippe a abandonné cet après-midi lors de la Classica San Sebastian.
C'est l'une des classiques, des grandes classiques de la saison cycliste dont il était d'ailleurs le tenant du titre. Il n'y a pas eu de communication officielle sur les raisons de son abandon après 90 km de course seulement. C'est son jeune coéquipier belge chez De Koninck Quickstep, Remco Evenepoel, qui s'impose. Il a seulement 19 ans. C'est une jeune pépite du cyclisme mondial. Julien Alaphilippe est tout de même attendu demain pour le Critérium d'Aix-en-Provence.
Ben voilà, c'est complet, c'est parfait. C'est signé Alban Le Poivre. Merci.
Europe 1, il est 19h16, la suite de votre grand journal, Thierry Dagiral.
On va revenir sur les manifestations à Nantes cet après-midi avec des slogans durs parfois contre la police. Où est la justice pour Steve ? On pouvait entendre dans la manifestation David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, sera avec nous dans un instant, à tout de suite.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral. On revient sur les manifestations de cet après-midi à Nantes. Thierry, vous recevez le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, David Lebars.
Bonsoir David Lebars.
Bonsoir.
Il y a eu ce matin un premier rassemblement en mémoire de Steve, le jeune homme qui est mort la nuit de la fête de la musique à Nantes, qui s'est passé dans le calme. Et puis le rassemblement de cet après-midi qui était là presque un rassemblement contre la police, non ?
Oui, pour la plupart de ceux qui ont appelé à ce deuxième rassemblement, il faut dire les choses clairement, on est sur des gens qui sont contre la police, qui dénoncent depuis plusieurs mois les violences policières et qui se servent d'un événement dramatique dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas ni les responsables ni les conclusions pour continuer à faire des exactions chaque samedi.
Ils s'en servent, vous avez dit ?
Oui, ils s'en servent parce que dans un événement dramatique qui est celui de la mort d'un jeune à laquelle nous pouvons tous d'ailleurs compatir, et j'en profite pour le dire, d'autant plus que la famille a fait preuve d'une grande dignité en disant qu'elle ne cautionnait pas ce type de rassemblement. Un événement dramatique qui fait que certaines personnes dans la classe politique, parmi des manifestants, parmi des groupuscules, continuent d'alimenter la haine et de souffler sur les braises dans un pays qui est chaque samedi, samedi après samedi, agressé par des gens qui sont là pour casser et dénoncer les institutions.
On a vu des pancartes « Où est la justice pour Steve ?» ou encore « La police a tué Steve ». Comment vous réagissez ? Ça vous affecte bien évidemment.
Et bien évidemment, c'est d'une part, c'est pas bon pour le moral des forces de l'ordre. Bien sûr. Il faut dire qu'aujourd'hui, C'est une journée d'hommage pour Steve et il ne faut pas non plus mettre toujours les difficultés des forces de l'ordre, même si samedi après samedi, je crois que c'est aujourd'hui l'acte 38, on voit bien qu'on est à plusieurs mois de mobilisation intense d'une frange de la population minoritaire, d'une certaine partie des activistes, des gens qui sont là pour semer le désordre et qui cherchent des prétextes pour dénoncer des violences policières. Alors on monte cran après cran. Maintenant, on a des gens qui sont en train de demander où est la justice. Mais où est la justice quand nous sommes dans une affaire 5-6 semaines après les faits? La justice a besoin de sérénité, a besoin de tranquillité, a besoin d'enquêter. Le temps de la justice, ça n'est pas le temps des réseaux sociaux et encore moins celui des anarchistes.
Dans ces manifestations, notamment cet après-midi, on a entendu « ça aurait pu être nous ». Il y a ce sentiment d'injustice qui existe, David Lebars.
Oui, mais vous savez, encore une fois, ce sentiment d'injustice, qui le dénonce? Je ne crois pas, dans les sondages d'opinion qui sont menés, en tout cas ceux qui sont fiables, que les gens ont un sentiment d'injustice. En France, il y a une justice, il y a des institutions, on est dans un pays démocratique. Je crois qu'on peut encore rappeler, j'ai l'impression qu'on oublie parfois qu'on est dans un pays où les choses se passent bien, où chacun a des droits, et le sentiment d'injustice de la minorité ne fait pas celui d'une population. Il faut laisser le temps aux choses. Ça n'est pas 5-6 semaines après une disparition, encore une fois dramatique, qu'on peut se permettre en France de tout casser et de dénoncer la police ou la justice qui ne font pas leur travail.
Dans les manifestations de cet après-midi, on a entendu des participants dire on a l'impression qu'on essaie d'étouffer l'affaire. Là encore, ce sentiment, vous l'entendez, vous le comprenez?
Non, en tant que policier, en tant que citoyen, sur les deux facettes, je ne le comprends pas. Est-ce qu'il y a, dans l'histoire de la Ve République et dans l'histoire des institutions récentes, des exemples qui pourraient faire imaginer qu'en France, on est victime de complots étatiques dans lesquels seraient complices des administrations telles que la police ou la justice? Enfin, c'est quand même invraisemblable. Il ne me semble pas qu'on soit dans un pays dans lequel on peut imaginer qu'on est victime d'une injustice d'État. Et ceux qui dénoncent cela sont ceux qui soufflent sur des braises malsaines et qui essayent d'agiter le pays pour faire adhérer derrière eux des gens qui pourraient effectivement se dire pourquoi pas. Et ben non, il ne faut pas laisser passer ce sentiment. Il faut le dénoncer, c'est faux.
Mais en même temps, il y a le rapport de l'IGPN qui dit il n'y a pas eu de charge. Et puis il y a les images qui sont là, qu'on voit sur les réseaux sociaux.
Oui, mais il faut encore une fois faire preuve de pédagogie. L'IGPN dit qu'il n'y a pas de charge au sens du maintien de l'ordre. Une charge, c'est une décision hiérarchique qui rassemble des forces de l'ordre et qui fait suite à des sommations ou à une riposte en urgence pour repousser des agresseurs. Ce qu'on voit sur les images, ce que j'ai regardé, et j'ai essayé de les regarder le plus attentivement possible, on voit effectivement que les forces de l'ordre font usage de la force. On voit effectivement que les forces de l'ordre utilisent des moyens intermédiaires, mais on ne voit pas une charge au sens organisé. Et puis, permettez-moi aussi de préciser les choses, à moins que d'autres images viennent montrer ce qu'on n'a pas encore vu. On ne voit pas d'action des forces de l'ordre dans toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux qui font chuter les gens à l'eau. Donc, moi je dis encore une fois, ne laissons à la justice le temps de trouver les preuves, puisque c'est ce que tout le monde demande, mais ne jugeons pas un rapport de l'IGPN qui jusqu'à présent n'a jamais été pris à défaut, parce qu'après 5 semaines, dans une enquête qui n'est qu'administrative, il y a juste une réponse intermédiaire qui est qu'il n'y a pas de lien direct entre l'action de la police et les gens qui sont tombés à l'eau.
David Lebars, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Hier, vendredi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est revenu sur l'utilisation de gaz lacrymogène par les policiers. Il a admis qu'il y avait un questionnement sur leur usage.
Mais c'est très simple, ce questionner. C'est d'ailleurs l'objet même de toutes les enquêtes. Vous savez, on est dans une période où on dit il y a un déni de réalité, il y a un complot, et en même temps, quand un ministre dit lui-même qu'il y a un questionnement, c'est inaudible. Oui, il y a un questionnement. Bien sûr qu'il faut questionner l'action des forces de l'ordre, bien sûr qu'il faut vérifier dans quelles conditions ils ont usage de lacrymogène. Est-ce que c'était prudent, est-ce que c'était pertinent de faire ça dans un secteur alors qu'on est au bord de l'eau? Est-ce que ça a pu causer la chute des gens à l'eau? Et si c'est le cas, eh ben il faudra en tirer toutes les conséquences, à la fois sur les responsables et puis à la fois sur la doctrine du maintien de l'ordre. Mais encore une fois, questionner, c'est sain, ça permet de faire avancer la vérité.
Quand Édouard Philippe, le Premier ministre, demande une enquête de l'inspection générale de l'administration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, il y a encore des zones d'ombre qui demeurent?
Alors ça veut dire deux choses. D'une part, que l'IGPN, qui n'enquête que sur les policiers, n'a pas permis de faire toute la lumière. Et l'IGA, pour faire simple et pour nos auditeurs, c'est le cran du dessus. C'est une inspection composée c'est un grand corps de l'État, composé d'inspecteurs totalement indépendants, enfin, jusqu'à présent, ouais. À moins qu'ils soient encore contestés, qui va pouvoir aller investiguer à la fois du côté de la préfecture, du côté de tous les services publics, du côté des administrations qui sont à l'origine de cette fête de la musique et de trouver les responsabilités.
Il y a eu des vitrines cassées à Nantes cet après-midi du mobilier urbain. On a senti néanmoins que la police était en retrait. Il y a eu ordre de calmer le jeu ?
Non, il n'y a pas ordre de calmer le jeu. Il y a eu des ordres très clairs qui ont été, pour faire simple, de protéger, de sanctuariser le centre-ville pour empêcher les nébuleuses activistes d'aller se mettre des ordres et de chaos, et un autre dispositif en périphérie pour essayer de les contenir. Vous savez, ce que vous venez de dire finalement, c'est quasiment une appréciation objective, voire positive du service d'ordre d'aujourd'hui. Il y a eu des dégâts, il y a eu des exactions, il y a eu un service d'ordre très dense, très organisé, qui a permis de juguler, en tout cas un maximum, la foule hostile, ceux qui étaient venus pour casser et s'en prendre aux forces de l'ordre.
David Lemars, restez avec nous, je voudrais qu'on écoute maintenant ce témoignage recueilli dans la manifestation cet après-midi par Yasmine Akatou. Écoutez.
Je viens pas pour casser, je viens pour dire mon mécontentement, parce que c'est plus possible. On peut plus, c'est plus possible. Les parents de Steve ne voulaient pas de violence, donc c'est pas respecté. Voilà, c'est ça que je déplore. Je pense que ses obsèques ne sont pas faites et il a le droit de reposer en paix, tout simplement. Ne serait-ce d'abord par respect pour lui, par respect par rapport à ses parents. Repose en paix, c'est ce qu'on dit, mais bon, derrière lui sera associé ce drame. On s'en rappellera de cette façon, quoi. Donc il y a d'autres jours, d'autres samedis, il y a autre chose à faire. Je suis contre la violence.
Voilà. Comment vous réagissez, David Lemars ?
Écoutez, il faut remercier cette dame et son témoignage. C'est une pure manifestante qui est venue pour une cause qui est la sienne, pour celle du décès de Steve. Elle a dit deux fois, je crois, qu'elle n'était pas là pour la violence. Elle a rappelé que la famille elle-même appelait à la non-violence. Voilà une manifestante. Ça change de certaines images qu'on a vues à Nantes, de ceux qui sont habillés en noir ou qui ont le visage dissimulé, qui essayent de semer le chaos dans la ville.
Dossier complexe, en tout cas, pour l'exécutif en ce moment. Dernière question, vous pensez que des têtes peuvent tomber ? On pense bien sûr au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Et vous savez, nous, policiers, nous sommes dans une administration qui est extrêmement compliquée. Nous avons une mission régalienne extrêmement complexe. Alors, bien sûr que le ministre qui est au-dessus de nous est extrêmement exposé. C'est sans doute le ministère le plus difficile du gouvernement, de celui-là comme de celui d'avant. Moi, j'appelle à une seule chose, c'est que les policiers que nous sommes, et même les gendarmes, on a besoin de stabilité. On est un ministère régalien extrêmement en difficulté avec une administration police qui est elle-même en difficulté, parfois paupérisée. On a eu plus de 10 ministres en moins de 20 ans. Donc, on souhaite, bien évidemment, qu'un ministre puisse s'inscrire dans la durée, mais bien évidemment, cet objectif. On est dans une période très compliquée. Force de l'ordre, ministre. Il faut savoir aussi dire les choses, ramener les gens à la raison et expliquer les choses objectivement.
Merci David Lemars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, en direct sur Europe 1 ce soir. Un grand merci à vous.
Europe 1. Restez avec nous, on va faire une courte pause, puis un peu de musique pour vous accompagner ce soir.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Votre grand journal du soir à suivre d'ici 20h.
Alors, à 19h40, Catherine, les conseils de sortie de l'Ispressac, 3 expos vraiment bien pour occuper vos enfants pour les jours prochains, pendant les vacances, c'est utile. Et puis à 19h50, retour sur Actu, on revient sur une actualité qui a marqué l'année. Ce soir, le jour où Donald Trump a mis un pied en Corée du Nord.
Oui, mais d'abord Thierry, place à la culture, au festival et aux promenades musicales de l'été.
Oui, tous les samedis à 7h-ci, on va se balader un peu partout en France avec vous, Thierry Geffrotin, bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Vous allez nous faire découvrir des festivals typiques, insolites, authentiques. On part d'abord sur l'île de Ré pour le festival Jazz au Phare.
Oui, alors l'île de Ré, vous connaissez peut-être la plage.
Un peu, oui.
La Quarde, le port en Ré, le Bois-Plage, la flotte, vous avez des souvenirs là-bas.
Ouais.
Est-ce que vous avez été à Saint-Clément-des-Baleines ?
Pas du tout.
Ah ben, il faut y aller, le lieu est très beau. Et donc, il y a un festival qui s'appelle Jazz au Phare, c'est bien trouvé.
Phare des baleines.
Exactement.
D'accord.
Je vais vous citer ce qu'écrit le directeur artistique dans la présentation de cette 10e édition. « La musique nous guide comme les faisceaux lumineux du phare des baleines le font pour ces voyageurs au long cours que nous sommes tous. » C'est joli, hein. Et parmi les artistes, il y a une très belle programmation. Parmi les artistes, notamment Christophe, et il y a Mélodie Gardot. Vous aimez ?
J'aime bien.
Ah oui, on rappelle qu'elle a été victime d'un grave accident de vélo à 17 ans et quand on l'écoute aujourd'hui, on se dit « mon Dieu, c'est une résurrection ». Eh bien, elle est demain soir sur la scène du Phare des Baleines à 22h. How was I to know that this was always only just a little game to you?
All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say.
Quelle voix?
Ah, vous l'avez dit.
Ah, bien.
Ça donne envie d'aller l'écouter. Hein.
Complètement. Jazzophare, donc, c'est jusqu'au.
Eh bien,
7 août.
Exactement.
On descend, Thierry, à présent, dans le centre de la France, à Rocamadour.
Oui, dans le Lot. Pas tout à fait le centre, mais allez, on va dire que c'est le centre. Alors là, vous avez du Bach, du Mozart, du Saint-Saëns, du Rachmaninov. C'est très classique, le festival de Rocamadour. C'est un lieu magique, ouais, Rocamadour. Très belle programmation également. Alors, il y a une journée type, ça c'est drôle, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait quand on va à un festival? On attend le concert du soir? Ben, pas du tout. À midi, vous avez ce qu'ils appellent un moment d'orgue. À 16h, vous avez un concert d'après-midi. À 17h15, une rencontre avec un musicologue qui vous présente le programme du soir. 18h, vous faites un petit tour au bar du festival. Ouais. Et à 21h, le concert. Alors, j'ai choisi deux moments. Tout d'abord, Renaud Capuçon, qui se produira avec un orchestre qu'il a créé, les Lausanne Soloists. Et ça sera le 15 août. Renaud Capuçon, le 15 août. Et puis là, c'est mon coup de cœur, une soprano que je vénère. C'est Sabine Devielle. Alors, je la vénère parce que c'est une très grande artiste. Et en plus, elle est normande comme nous, figurez-vous.
Ah, bien,
et ça sera
bien, ça.
Le 17, elle chantera Mozart. Vous êtes conquis ?
Ah oui, ouais, tout ça dans le cadre de Rocamadour, ça va être somptueux.
Jusqu'au 26 août, ce festival de Rocamadour, c'est de la musique sacrée. Donc.
On va en Bretagne,
Très
à Dinard,
beau, ouais,
ça, hein.
Très beau festival, le 30e festival international de musique de Dinard. Il n'y a pas qu'un festival de films, vous savez, britanniques. Là, c'est de la musique classique. Ça commence dans une semaine avec un concert donné par l'Orchestre Symphonique de Bretagne, en plein air. Et gratuit. Et puis, alors, je vous signale deux concerts de piano, Bertrand Chamaillou et Kouhoun Peck. Et puis, un concert très intéressant, alors pour petits et grands, concert en famille, comme on dit. C'est Des Malheurs de Sophie. C'est la pianiste Claire-Marie Leguet qui a pris des musiques de Schumann. Et c'est Agnès Jaoui qui lit un très joli conte. Donc, ça, ça sera le 11 août à Dinard.
Voilà, donc le festival de musique de Dinard du 10 au 18 août. On termine notre balade à Marciac, célèbre festival de jazz, Thierry.
Oui, alors le festival a déjà commencé depuis le 26 juillet. Il se poursuit jusqu'au 15 août. Je vous rappelle Marciac, 1200 habitants l'hiver. Et, et là, je crois qu'il y a 200 000 personnes qui vont passer à Marciac pour le festival de jazz. C'est quand même l'endroit où il faut aller écouter du jazz. Et cette année, alors vous savez, tout le monde est venu là. Tout le monde, absolument tout le monde. Winston Marsalis vient
depuis 1991.
John Baez, enfin, Art Blakey, Didi Bridgewater, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et là, cette année, il y a Manu Dibango qui va venir avec Soul Mokassa Gang. Et ben, ça va, comment dire, être chaloupé, hein, ça va swinguer.
Jazz in Marciac, donc jusqu'au 15 août. Thierry Geffrotin, vous êtes un curieux, vous aimez toutes les musiques loin des sentiers battus, et ça, c'est bon. Merci infiniment à vous. Bonne semaine.
Merci.
Rendez-vous samedi prochain.
Avec plaisir.
Voilà, Manu Dibango sur Europe 1 et Thierry Geffrotin tous les samedis de l'été à 19h30 pour des promenades musicales et estivales.
Europe 1. Et dans un instant, après la pause, les bonnes idées de Lise Pressac, des expositions pour vos enfants.
Europe 1. Thierry Dagiral. Europe 1.
Europe
Europe 1, 19h38, le grand journal du soir continue avec vous Thierry Dagiral.
Oui, tous les samedis à 7h06, on vous donne des idées de sorties d'été avec vous, Lise Pressac, bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Alors, trois idées pour nos enfants et on commence par le musée des Confluences à Lyon.
Pour aller voir l'exposition Mini-Monstres, les invisibles, poux, puces, moustiques, punaises de lit, tiques, mouches, acariens, vous savez, toutes ces petites bêtes qui nous tournent autour, nous piquent, se gorgent de notre sang. Destinée aux 7-12 ans, l'exposition nous fait basculer dans le monde de l'infiniment petit. Vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d'un scientifique et observer ce monde mystérieux avec votre microscope. Enfants et adultes vont ainsi découvrir comment ces parasites tirent allègrement profit de notre corps, quelles prouesses aussi ils sont capables de réaliser malgré leur taille minuscule, mais aussi les nuisances qu'ils peuvent causer. Et surtout, cette exposition vous fera prendre conscience que ces petites bêtes, certes désagréables pour nous, ont un rôle fondamental quand même dans l'équilibre d'un écosystème que nous sommes en train de dérégler. Mais oui Thierry, c'est vrai, l'exposition Mini-Monstres, les invisibles, c'est à découvrir jusqu'au 3 mai 2020 au musée des Confluences à Lyon. L'entrée coûte 9€ pour les adultes et 6€ à partir de 17h. Et cette expo est gratuite pour les moins de 18 ans.
Alors ça c'est à Lyon. Lise, maintenant vous nous emmenez à Arles pour les rencontres de la photographie, bien sûr.
Oui, un événement qui n'oublie pas les enfants avec une programmation spéciale jeune public. Les enfants de 7 à 11 ans pourront participer à différents ateliers créatifs autour de la pratique et l'analyse de l'image. À chaque jour de la semaine, son atelier. Le lundi, les enfants produisent leur propre image afin de comprendre la démarche créative des auteurs. Mardi, ils jouent les commissaires d'exposition en choisissant l'ordre et l'agencement de leurs œuvres. Mercredi, ils découvrent la cyanotypie, c'est l'un des plus anciens procédés photographiques. Jeudi, c'est un atelier de création surréaliste en images et en mots. Et vendredi, les enfants créent leur carte postale inspirée de ce qu'ils ont vu à Arles. Chaque atelier coûte 13€. Il existe un forfait à 52€ pour les 5 ateliers. Si vraiment votre enfant est motivé et veut y aller tous les jours, c'est un bon plan pour les parents.
Ça, c'est pas comment l'occuper, c'est ça. Ouais.
C'est ça, les ateliers pour enfants ont lieu de 14h30 à 16h30. C'est du lundi au vendredi jusqu'au 30 août. Et vous pouvez aussi, bien sûr, les emmener dans les différents lieux d'Arles qui accueillent les rencontres de la photographie jusqu'au 22 septembre.
C'est chouette, c'est une belle idée, ça.
Ouais.
Troisième idée, vous nous proposez une exposition pour les enfants à Lille.
Une exposition pour les enfants est faite par des enfants. C'est le principe de MOMAR, c'est à la gare Saint-Sauveur de Lille. Tout au long de l'année, près de 10 000 élèves des écoles de Lille, d'Elem, l'homme, et se sont initiés à différentes disciplines artistiques sur le thème d'Eldorado. Et au cours des derniers mois, les enfants ont rencontré des artistes et ils ont peint, dessiné, sculpté autour de ces sujets. Ce sont leurs œuvres qui sont présentées à travers une grande exposition et des ateliers créatifs. Des ateliers et des jeux sont organisés tous les samedis. Ils sont gratuits dans la limite des places disponibles. L'exposition MOMAR se tient jusqu'au 1er septembre. C'est à la gare Saint-Sauveur de Lille. Elle est ouverte du mercredi au dimanche de 12h à 19h et l'entrée est gratuite.
Ben c'est complet. Merci Lise Pressac pour toutes ces belles idées. On vous retrouve dès lundi.
Tout à fait.
À 9h. Oui. Avec un invité.
Avec Catherine Jacob qui nous fait le plaisir d'être là.
Et vous serez au balade bien sûr du Club de l'été sur Europe 1. Merci Lise.
Europe 1, 19h41, un gros plan à présent sur les métiers de l'été, ceux qui travaillent pour nous tout au long de la saison estivale, Thierry Dagiral.
Alors oui, peut-être qu'après ce samedi noir sur les routes, vous êtes arrivé sur votre nuit de vacances. Ce soir, c'est peut-être la première soirée. Je vais vous présenter David. David, il est animateur de soirée dans les villages du département des Hautes-Pyrénées pendant l'été, mais il est parallèlement maire du village de Goudon, rencontre signée Benjamin Péter.
En quelques minutes, il a mis le feu aux fêtes de Lourdes. DJ David est aux platines et la foule danse et chante à tue-tête sur les tubes des années 80.
Les meilleurs sont là devant moi, attention, ça va être à vous! On y va tous, on y va! Où ça?
Il faut dire qu'il a mis les moyens, murs d'images, spectacles pyrotechniques, danseuses et des cadeaux par dizaines pour le public, une passion pour l'animation qui est née un peu par hasard.
Et je me suis mis à animer une soirée et c'est parti comme ça, un anniversaire. Puis petit à petit, et voilà, on a fait notre chemin. Quelque part, porter un peu ce message festif et nos valeurs du sud-ouest de la France. Voilà. C'est quelque chose que j'ai ancré en moi et pour certains, ça va être un peu has-been. Ça va être... Mais moi, voilà, j'ai toujours créé de l'animation avec un micro à la main, aller au carton, là, au devant des gens, et créer cette interactivité avec le public. Et aujourd'hui, avec une culture musicale intergénérationnelle. Ça va des années 80, 90, au tube actuel, quoi.
Et pourtant, lorsqu'il retourne dans son petit village de Goudon, 230 habitants au cœur des Hautes-Pyrénées, DJ David redevient David Chaz, monsieur le maire. Il est élu depuis 2008 ici, et le ton et les préoccupations changent un petit peu.
Vous vous aviez fait les mandats. Donc tout ça, c'était parti. Hein.
Oui, c'est parti. Hein, okay. Ça a été payé la semaine dernière.
Bon, okay. Mais tout ça, c'est bon. Voilà. Donc ça, vous pouvez le clôturer.
Je suis à l'enfant du village. Je suis arrivé à Goudon, j'avais 2 ans. Et j'en ai 45 aujourd'hui. S'engager dans son village, bon, c'est vrai que je pense que si on n'est pas passionné, on ne le fait pas longtemps. Parce qu'aujourd'hui, c'est une aide sociale sur une personne au travers du conseil départemental. C'est au quotidien, c'est l'école, c'est les administrés ben, voilà, ici, qui veulent demander un arrêté de voirie pour faire des travaux au bord d'une route, par exemple. Alors, on est heureux dans un intérêt général. Voilà, on est arrivé à quelque part à mettre une petite pierre supplémentaire à l'édifice.
Donc si jamais vous recevez les convocations oui, de la journée, vous me le dites.
Depuis quelques années, il a également créé Chloé Production, une société d'événementiel qui organise des animations un peu partout en France, sur scène ou dans des supermarchés. Aujourd'hui, il pourrait complètement arrêter d'animer des soirées, mais il ne peut plus s'en passer.
C'est du plaisir et c'est une satisfaction de voir aussi que voilà, les gens sont super contents, ils s'amusent, on les entraîne dans notre délire. Et on ne s'est jamais entendu reprocher, ah oui, mais DJ David, il ne s'est pas mixé. Mais moi, je le revendique, je m'en fous de ne pas savoir mixer. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens, ils dansent et ils s'amusent et ils chantent avec nous. Après, oui, effectivement, d'un morceau à l'autre, là, peut-être qu'il va y avoir une coupure, là.
Petit sprint jusqu'aux platines, mais en grand professionnel, DJ David retombe sur ses pattes.
C'est parti, on va se coucher ou pas, Louis ?
Pour Anthony, qui travaille avec lui, c'est cette passion des gens qui lui permet de faire danser tout le monde.
C'est sa bonne humeur, c'est son tempérament, c'est ce qu'il dégage auprès des autres. Et voilà, les gens accrochent de suite par son humeur, par l'ambiance qu'il met, et voilà, c'est propre à lui. C'est quelqu'un qui aime les gens avant tout. Avant de faire ce métier-là, il apprécie les gens, il aime discuter avec eux, et ça se ressent de suite sur l'animation, quoi. Sinon, ça marcherait pas.
Qui n'a pas eu son foulard ?
Voilà, c'est une aventure humaine, quoi. C'est un bien vivre ensemble et c'est de donner du plaisir aux gens tout en nous se régalant. Voilà. Parce que le jour où je ne retrouverai plus ce côté festif qui nous manque quand même aujourd'hui beaucoup dans cette société, et on voit que les gens ont besoin de se lâcher, vous voyez, là on les fait participer, ils entendent, ils nous répondent. Et c'est vrai que le jour où je ne retrouverai plus ça, effectivement, ben là je raccrocherai.
Mais pour l'instant, la passion reste intacte. Il continue les baloches, comme il les appelle lui-même avec le sourire, et la vie publique aussi, puisqu'il a bien l'intention de se représenter au municipal l'an prochain. Entre Lourdes et Goudon, Benjamin Péter, Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous, on va changer totalement d'ambiance dans un instant. On va revivre un événement d'actu de cette année. On va le disséquer. Ce soir, on va revenir sur une image. C'était le 30 juin, le jour où Donald Trump est entré en Corée du Nord. A tout de suite.
Thierry Dagiral sur Europe 1. Europe 1, 19h49. Tous les week-ends à 7h06, dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, on revient sur un événement qui a marqué l'actualité récente, le jour où.
Exactement, et ce soir on va faire un zoom sur le dimanche 30 juin dernier, c'est tout récent encore, le jour où Donald Trump a mis un pied en Corée du Nord. Voilà, et des bruits de flash qui crépitent pour immortaliser une poignée de main vigoureuse entre Kim Jong-un et Donald Trump. On revient sur cet événement avec vous, Corentin Célin. Bonsoir.
Bonsoir.
Agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. En quoi, Corentin Célin, cette image est historique ?
Elle est historique parce que non seulement Donald Trump était déjà le premier président états-unien à avoir rencontré le chef dictateur de la Corée du Nord, mais là, il devient le premier président des États-Unis à mettre un pied sur le sol de Corée du Nord, c'est-à-dire d'un pays longtemps considéré comme membre de l'axe du mal, si on reprend l'appellation de George Bush, un pays vraiment ennemi, sous sanctions états-uniennes, et Donald Trump... une fois de plus, il l'a souligné lui-même, il marque l'histoire, il veut marquer l'histoire. Et
c'est important pour lui, pour Donald Trump, diplomatiquement.
Alors déjà, c'est important pour lui personnellement. Parce qu'il veut
En termes de com. Parce que quoi, il pense à 2020, les élections.
Oui, non seulement ça, mais toujours son pari d'être le premier en tout. D'être le premier dans toutes les matières, reconstruire la première économie du monde, être le premier président à faire ceci ou cela, et là on entre exactement dans le projet. Et effectivement, et on l'a vu par la suite, il y a l'idée, voyez, les autres n'avaient rien fait sur la Corée du Nord, moi j'ai osé, non seulement je l'ai rencontré deux fois déjà auparavant, et puis là je vais carrément en Corée du Nord. Donc effectivement, ça sert son récit de communication politique d'un président qui va là où nul autre président n'est allé auparavant.
C'est un coup de com' aussi
pour le dirigeant nord-coréen, bien évidemment.
Bien sûr, il faut se rendre compte qu'en 18 mois, Kim Jong-un a gagné après ses deux sommets, donc à Singapour et à Hanoï, puis avec cette rencontre en zone démilitarisée en Corée. Il y a 18 mois, c'était un dictateur sanguinaire, totalitaire, complètement à la marge.
Marginalisé, complètement.
Complètement à la marge du système mondial, qui commençait même à être lâché par l'allié chinois, hein, l'allié nourricier. Et puis là, par cette relation interpersonnel qu'il a su nouer avec Donald Trump, le voilà relégitimé, le voilà sous les flashs des caméras. Alors, ça reste toujours un dictateur totalitaire et sanguinaire, mais il est de nouveau admis à la table des puissants et il a été totalement relégitimé par la communication de Donald Trump.
Corentin Sellin, il faut le rappeler, des images qui interviennent, il faut le rappeler, après deux échecs de négociations sur le processus de dénucléarisation de Pyongyang.
Oui, alors effectivement, c'est toujours la même histoire depuis le premier sommet de Singapour. Ouais. Des images de fait historiques, ou au moins inédites. Et puis ensuite, des promesses de négociations qui n'amènent nulle part, puisque les négociations avait vaguement commencé entre des équipes de diplomates états-uniens et nord-coréens après Singapour. Elles ont vite stagné parce que les nord-coréens ont dit qu'il était évidemment hors de question de renoncer à leurs armes nucléaires. Après Hanoï, la même histoire, des négociations qui n'ont pas vraiment lieu. Parfois même, les nord-coréens ne se sont même pas présentés à des rendez-vous fixés.
Ouais.
Et puis là, depuis le 30 juin, il faut bien le dire, normalement, les négociations étaient annoncées pour reprendre, puisque c'était ça aussi l'objet de cette poignée de main en Corée du Nord, elles devaient reprendre. Mmh. Et puis finalement, à l'heure actuelle, un mois après, elles n'ont toujours pas repris parce qu'il y a un problème, c'est que Donald Trump veut la dénucléarisation et évidemment, la Corée du Nord et Kim Jong-un ne la veulent pas.
La dénucléarisation de la péninsule, c'est l'enjeu aussi de ces images historiques, je venais de le dire. Voilà ce que disait Donald Trump, c'était le 2 juin 2018.
Je sais qu'ils veulent le faire, et puis ils veulent d'autres choses similaires. Ils veulent se développer en tant que pays, cela va se faire, je n'en ai aucun doute.
Voilà, vous venez de le dire finalement, cette dénucléarisation, elle est possible ?
Elle apparaît extrêmement compliquée. Il faut rappeler par exemple que les services de renseignement des États-Unis, donc sous les ordres de Donald Trump, eux-mêmes n'y croient pas. Récemment par exemple, les services de renseignement de la Défense auraient estimé que pendant ces négociations, ces rencontres historiques, la Corée du Nord aurait augmenté son arsenal d'armes nucléaires. Donc voilà. C'est pas gagné du tout. Je veux dire, et de toute façon, il faut bien se mettre à la place de Kim Jong-un. Kim Jong-un, il a vu Saddam Hussein, il a vu Kadhafi, il sait ce qui arrive à ceux qui renoncent à se nucléariser. Pourquoi il se priverait de son outil de puissance? Et il le voit bien là, qui le fait inviter à la table du président des États-Unis, qui le fait respecter. Et là, il y a vraiment une incohérence majeure dans la diplomatie de Donald Trump.
Je voudrais qu'on parle de la relation personnelle entre les deux hommes. Est-ce qu'en coulisses, finalement, cette relation entre les deux dirigeants, elle est au beau fixe?
Oui. Alors, incontestablement, Donald Trump croit ce qu'il dit sur sa relation avec Kim Jong-un. C'est-à-dire que tout ce jeu des lettres, des mots doux presque, qu'ils s'échangent depuis un an, Trump y croit, dur comme fer, on l'a entendu. Et pour lui, Kim Jong-un viendra à la dénucléarisation. Et c'est pour ça aussi qu'il le flatte. On a entendu quand même un président des États-Unis parlant d'un dictateur tyrannique et sanguinaire, dire que c'était un grand chef, qu'il avait fait de bonnes choses pour son peuple, etc. Non, il y a vraiment une vraie relation interpersonnelle, parce que Kim Jong-un a su jouer sur un aspect essentiel de la personnalité de Trump, c'est que Trump veut se sentir spécial, veut toujours se sentir particulier. Et Kim Jong-un, en gros, il lui dit bon, avec toi, je veux bien négocier.
Voilà. Donc, ce qu'il disait en tout cas Donald Trump, c'était le 30 juin dernier.
C'était un grand pas aujourd'hui, en tout cas j'imagine, d'après ce que tout le monde me dit. Mais c'était un honneur, et je lui ai dit, ce qui est arrivé aujourd'hui est, je pense, bon pour la Corée du Sud, bon pour la Corée du Nord, et bon pour le monde entier. Le monde était un endroit très tendu, et puis je suis devenu président. Nous sommes passés en tout cas par des dialogues difficiles pendant un moment, et nous nous en sommes bien sortis.
Le ton a changé, hein, Corentin Sellin. On se souvient du Rocketman lancé par Trump à propos du dictateur nord-coréen.
Oui, mais parce que justement, tout a changé le jour où Kim Jong-un a fait porter, par l'intermédiaire de la Corée du Sud, une lettre personnel à Donald Trump, ouais. Où il a en quelque sorte entrouvert la porte. Alors Trump pense qu'il a entrouvert la porte pour négocier sur la dénucléarisation. C'est sûrement là qu'il y a une embrouille et un malentendu. Mais par contre, depuis ce jour-là, ce qui a amené ensuite à l'entrevue de Singapour et à l'entrevue de Hanoï, Donald Trump est convaincu qu'il y a vraiment une magie particulière entre eux, une alchimie qui ne pourra amener qu'à des avantages diplomatiques. Sauf que pour l'instant, il y a effectivement une relation particulière entre eux, mais du point de vue diplomatique et concret, elle n'amène rien.
On peut imaginer, dernière question, maintenant, une visite du dirigeant nord-coréen à la Maison-Blanche, comment
oui,
t'en sais-là ?
Ouais. Oui, c'est la prochaine étape, hein, il ne faut pas se cacher. Ouais. Alors évidemment, ça poserait d'énormes problèmes, en particulier en termes de sécurité, parce qu'on connaît l'appareil de sécurité monstrueux qui accompagne le dictateur nord-coréen. Ça poserait des problèmes symboliques. Accueillir à Washington, dans la capitale de la démocratie libérale, un tel dirigeant, ça poserait problème, mais le mot a été lancé, c'est envisagé très sérieusement à la Maison-Blanche. Alors, une fois de plus, pourquoi faire ? C'est ça le problème.
C'est ça, c'est que derrière cette image historique, ce moment historique du 30 juin, je vous sens très sceptique finalement.
Oui, évidemment, hein, on attend que les faits me démentent, hein, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça fait 18 mois que ce rapprochement a commencé, il s'intensifie entre les deux hommes dans la relation interpersonnelle, mais pour l'instant, il n'a strictement abouti à rien. Et d'ailleurs, lors de tout le mois de juillet, au contraire, la Corée du Nord a montré son agacement parce que les États-Unis n'ont pas renoncé à leur alliance militaire avec la Corée du Sud, ont planifié pour cet été des exercices militaires qui contrarient énormément Pyongyang, et donc la Corée du Nord a procédé à des essais de missiles à courte distance. Alors, à courte distance, ils ont le droit, hein, c'était dans la déclaration signée à Singapour. Oui, mais ils ont publié des communiqués très rageurs contre les États-Unis. Donc on voit bien que concrètement, dans la diplomatie quotidienne, rien n'a changé.
Le jour où Donald Trump a mis un pied en Corée du Nord, le 30 juin dernier, Corentin Célin, agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, un grand, grand merci à vous.
Merci. Europe 1.
Tiens, demain, à la même heure, on reviendra sur le jour où la droite s'est effondrée. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Cédric Lastenet qui m'a aidé à préparer ces deux heures d'infos. Merci à Cyril Pascal à la réalisation. À demain, Catherine.
Oui, avec plaisir.
Oh, merci à vous. Belle soirée à tous.
C'était le Grand Journal du Soir de Thierry Dagiral. 19h58, l'heure du rappel de l'information avec vous, Claudia Bertram. Bonsoir Claudia.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. À Nantes, une journée entre hommage et tension. Plusieurs centaines de personnes se sont d'abord rassemblées dans le calme en mémoire de Steve Maya Canisso en début de matinée. Puis un deuxième rassemblement pour protester contre les violences policières a été plus mouvementé. Jets de projectiles, départ de feu, barricades érigées près de la cathédrale du côté des manifestants. Riposte des forces de l'ordre avec des grenades lacrymogènes et des lances à eau. D'après les informations du service police-justice d'Europe 1, des manifestants ont également tiré une fusée d'alarme en direction de l'hélicoptère de la gendarmerie nationale qui survolait la zone. Toujours d'après nos informations, 1700 participants ont été dénombrés, dont environ 400 black blocs ou activistes identifiés. La police a indiqué avoir procédé à 34 interpellations. Dans le Gard, les pompiers restent mobilisés après l'incendie de Générac qui a coûté la vie au pilote d'un bombardier d'eau et qui a ravagé plus de 800 hectares. Depuis mardi, le feu est maîtrisé mais reste sous surveillance. Les deux personnes interpellées hier ont été libérées. L'enquête se poursuit. À l'international, une nouvelle manifestation de l'opposition réprimée en Russie. Plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés. Ils défilaient à Moscou pour exiger des élections libres pour les scrutins locaux de septembre. La justice russe a par ailleurs ouvert une enquête pour blanchiment contre le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. En Formule 1, le Néerlandais Max Verstappen décroche la première pole position de sa carrière lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1 disputera la 12e manche du championnat du monde demain à Budapest. Enfin, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel ce week-end. Depuis hier et jusqu'à demain soir, les Nuits des Étoiles vous font découvrir la beauté et les richesses de la voûte céleste.
Merci Claudia Bertram, retour de l'info avec vous dans moins d'une heure.
Il est 20h.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'écouter un moment.